Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour une émission consacrée à la Libye, que, je dois dire, j'essaye de mettre en place depuis un certain temps, au sens où elle me semble répondre à un réel besoin en fait, d'explication et de décryptage sur la situation libyenne et son aggravation depuis quelques mois et même quelques années. J'ai donc le grand plaisir de recevoir Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut Klingendel de Relations Internationales de La Haye, spécialiste notamment de la Libye et du conflit libyen. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par dire que la situation en Libye est vraiment un sujet excessivement compliqué et sur lequel il y a plein de points d'entrée, notamment parce que c'est un front et c'est un point d'achoppement qui revient très régulièrement dans l'actualité, notamment au début et même au milieu de l'été, où ça a été une des multiples sources de tensions, notamment entre la France et la Turquie en Méditerranée. Donc évidemment, c'est toute une partie du sujet, et on va en parler naturellement, mais simplement, il me semble que la situation libyenne est suffisamment complexe, et en même temps que c'est un cas aussi très intéressant des problèmes que peut amener une intervention militaire extérieure et de certaines problématiques de transition de régime, justement pour pas traiter la question libyenne comme une sorte de vitrine ou comme une sorte de révélateur des grandes tensions géopolitiques du monde contemporain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la question qui est vraiment complètement libyenne, et que, bon, il me semble qu'on l'évacue assez souvent en utilisant des notions un peu floues et qui permettent pas toujours de vraiment comprendre ce qui se passe. Vraiment, c'est comme quand on parle de milices ou d'islamistes, mais on reviendra sur tout ça et on essaiera d'entrer en profondeur. Donc on va essayer de pas faire l'économie de ça et de pas faire l'économie des facteurs qui sont vraiment proprement libyens à cette crise, et donc de comprendre ce qui se passe et ce qui se fracture dans ce pays et dans cette société de 2011 à aujourd'hui, donc 2011 évidemment la chute du régime de Kadhafi, mais ce qui implique évidemment de remonter considérablement en amont. Donc, pour prendre cet objectif à bras-le-corps, Jalel Archaoui, j'aimerais commencer en posant une question extrêmement bête et en même temps très difficile. C'est-à-dire que j'aimerais que vous nous expliquiez autant que possible ce que c'est que ce pays, qu'est la Libye, et comment est-ce qu'il fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une idée un peu vague qu'on manipule beaucoup sur la Libye, déjà à l'époque où l'intervention occidentale de 2011 se préparait, puis au moment de la chute de Kadhafi, et puis qui est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire une idée que c'est un pays qui fonctionne selon des logiques tribales, qui n'a pas d'état fort de manière traditionnelle, etc. Donc simplement, est-ce que c'est vrai? Et si oui, bon, quelles sont ces logiques tribales? C'est-à-dire comment est-ce que ça marche vraiment? Ce qui va, j'imagine, nous amener à la création du pays, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est une vraie nation, parce que on entend ça parfois en disant que la Libye, contrairement à ses voisins nord-africains, ne constituerait pas une véritable nation, ce n'est pas réellement authentique, parce que ça a été un petit peu cousu pour la première fois au milieu du XXe siècle, ce qui est vraiment une erreur, parce que ça vient ignorer des décennies et des décennies où les trois provinces en question, donc je vous rappelle la Tripolitaine au nord-ouest, la Cyrénaïque à l'est et le Fezzan au sud-ouest, étaient déjà liées sous le régime ottoman pendant des siècles. Donc les familles se sont déplacées, la ville de Benghazi a été en grande partie construite par des Misrati. Donc je tiens à commencer par... vraiment demander de faire attention par rapport à cette tension, que la Libye serait moins une nation que ses voisins. Personnellement, moi, j'ai toujours été surpris par évidemment, c'est un pays extrêmement vaste. Je dirais que c'est peut-être la première caractéristique. C'est plus de trois fois la France pour une démographie qui est extrêmement petite. Donc, on est à peine à 6 ou 6,5 millions aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'on est au-dessus des 100 millions pour un territoire plus petit juste à l'est, l'Égypte, qui n'a pas de pétrole, qui a un peu de gaz, et vous voyez donc déjà d'un point de vue structurel, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'exceptionnel.
C'est-à-dire c'est à la fois un pays très vide, très grand, très vide et très riche par ses ressources naturelles. Quoi.
Voilà, et ça a des conséquences sur le plan des craintes idéologiques des uns et des autres qui sont absolument intenses. Parce que ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que n'importe quelle idéologie, n'importe quelle administration, n'importe quel cabinet ou gouvernement, même complètement incompétent, a de fortes chances de réussir. Donc, si vous
Parce qu'il y a des moyens structurels.
Voilà, il y a tellement d'argent, il y a un emplacement tellement enviable, ça c'est une autre caractéristique inhérente à la géographie, l'emplacement par rapport à l'Europe, par rapport... c'est un cliché que je vais dire, mais c'est véritablement un ventre mou par rapport au reste de l'Afrique. On n'a pas envie d'entrer en Afrique quand on est la Turquie ou la Russie ou n'importe quel autre pays du Nord à travers l'Algérie ou l'Égypte. C'est trop compliqué, ce sont des états trop forts, des démographies trop épaisses. Et donc on se tourne forcément vers la Libye.
Mais alors revenons simplement sur donc, l'origine du pays. Donc vous l'avez dit, c'est trois provinces, provinces ottomanes, qui ensuite sont récupérées au moment du lent délitement de l'Empire ottoman par l'Italie.
Oui.
Et donc, comment est-ce que tout ça se configure donc en 1945 quand l'Italie perd toutes ses possessions outre-mer ?
Deux choses. Là, déjà, sur le côté tribal, il faut faire très attention encore une fois parce que effectivement, la dimension tribale est très importante. Le grand problème, c'est que cette importance-là varie. Elle n'est pas uniforme à travers tout le territoire national. Donc, si on va à l'est, par exemple, effectivement, ce sont des tribus qui sont toutes très arabes, très bédouines, avec un sens de l'histoire qui est relativement similaire. Et dès qu'on se déplace vers les grandes villes très, très importantes démographiquement au nord-ouest, on se rend compte que c'est beaucoup plus une mosaïque. Il y a une dimension turque, il y a une dimension amazigh, bien sûr. Il y a la dimension...
Amazigh, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire des berbères, donc les mêmes peuples que les Kabyles d'Algérie, par exemple. Et ça veut dire que quand on dit, voilà, par exemple, quand certains historiens disent que tout est tribal en Libye, c'est un acte politique que de dire ça, puisqu'on montre, volontairement ou non, une sympathie par rapport à l'Est libyen. L'Ouest est beaucoup plus urbain. Si vous êtes dans un contexte urbain de plusieurs générations, ça ne veut strictement rien dire pour vous, la tribu, en tout cas beaucoup moins que pour d'autres villes qui ne sont pas très loin finalement de Tripoli. Donc il faut faire très attention. La tribalité, si je puis dire, n'est pas un paramètre qui est constant à travers tout le territoire. Donc ça veut dire que c'est inutilisable concrètement et il faut se rendre compte qu'il y a des sentiments autres que l'appartenance tribale. La politique, c'est très important. L'histoire locale est très importante, les différentes rancunes ultra-locales, j'allais dire aussi, et ça peut exister même au sein même d'une tribu. L'autre chose que je voulais dire par rapport à justement à ce lendemain de Deuxième Guerre mondiale, c'est le traumatisme que représente la visite, si je puis dire, en tout cas les quelques décennies de présence italienne. C'est vraiment des camps de concentration avec un caractère meurtrier à cette expérience-là qui est absolument à souligner ici, parce qu'on parle souvent des camps de concentration nazis, mais très peu des camps de concentration fascistes italiens. Et d'ailleurs, c'est le côté très meurtrier de la présence italienne avait commencé avant 1922. Déjà, la première décennie, entre 1911 et 1922, c'était déjà extrêmement brutal. Et donc, si vous faites ça dans une population qui est plus petite, eh bien, en termes de pourcentage, vous tuez beaucoup plus de gens que l'expérience algérienne ou britannique en Inde ou n'importe quoi. Donc ça, il faut se souvenir parce que c'est facile de dire que les institutions sont fragiles, mais il y a un caractère meurtre de masse qui n'est pas très, très loin dans l'esprit en tout cas dans l'expérience historique des familles libyennes. Après, il y a ce qui est très intéressant au lendemain de 1945, c'est que finalement, le morceau français, donc je tiens à dire que c'est l'administration française qui en charge depuis 1943 de cette province au sud-ouest de la Libye qui s'appelle le Fezzan. La France s'y intéresse beaucoup, non pas parce qu'elle trouve qu'il y a des avantages inhérents au territoire, mais simplement parce qu'elle cherche ce capuchon, ce complément de sécurité, cette marge de, supplémentaire, si je puis dire, pour être vraiment tranquille vis-à-vis de ces propriétés algériennes, tchadiennes et ainsi de suite. Donc ça, on trouve un peu la naissance du lien qui existe entre Paris et le territoire libyen, qui met une emphase historique et non pas géographique, justement, par rapport au Fezzan. Mais finalement, toutes ces présences européennes sont déçues après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui prévaut, c'est vraiment ce principe d'autodétermination, cette espèce d'encouragement au nationalisme, notamment arabe dans ce cas-là, qui vient de Woodrow Wilson, et ce n'est pas les nations européennes qui ont encore des réflexes
qui n'est pas directement de Woodrow Wilson, mais disons
voilà,
c'est l'héritage.
Qui a été ravivé par Roosevelt, ravivé par Truman.
Rappelons que Wilson, c'est l'héritage au lendemain de la Première Guerre mondiale de l'aspiration des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et bon, c'est cette idée-là qui est ravivée au sorti de la Seconde Guerre mondiale et qui va être très utilisée, voire même instrumentalisée, notamment par les États-Unis, pour, disons, faire fermenter, dans une certaine mesure, les nationalismes d'Afrique du Nord qui vont arriver à maturation peu après.
Et d'une certaine façon, même si c'est d'une manière très, très modérée, la première manifestation du phénomène que vous soulignez très, très justement, c'est justement le fait que le dessin, si vous voulez, français ou britannique, ne peut pas se réaliser.
C'est-à-dire le vague
c'est,
désir...
Donc les trois morceaux sont réunis.
Le vague désir des Français ou des Britanniques de
piocher. Garder un morceau, de dépecer la Libye et de garder un petit morceau qui n'a pas forcément de... Voilà.
Donc, apparaît un État, un nouvel État, relativement, en tout cas sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qui le dirige, cet État ? Alors, et comment est-ce qu'il se met en place ?
C'est une monarchie qui a été récupérée, si je puis dire, et en tout cas soutenue par les Britanniques. C'est cette fameuse Sanusienne, c'est-à-dire confrérie soufiste qui a été créée par un Algérien plusieurs décennies auparavant. Le lien entre le roi et les Britanniques avait été instrumentalisé dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands et les Italiens en Libye. Et puis finalement, c'est ça qui est utilisé comme gouvernement local. C'est une monarchie qui est très faible parce que justement elle a toujours été faible. La Sénécienne n'a jamais été puissante en Tripolitaine ni encore moins au Fezzan. Et finalement, il y a un autre choc, c'est la découverte du pétrole à partir de 1958-59. Et ça, c'est cette richesse soudaine sur des familles et des structures, des coutumes qui ne sont pas habituées à une telle relaxation, si je puis dire, eh bien c'est le début de ce qui va donner naissance aux révoltes des officiers libres. J'utilise la même expression que ce qui s'était passé en Égypte. Donc il y a une espèce d'imitation par de jeunes officiers, dont Mouammar Kadhafi, qui est capitaine de 27 ans en 1969, et qui prend le pouvoir. La raison pour laquelle la monarchie s'est fait, si je puis dire, avoir, hein, qui a été prise par surprise par ce phénomène, c'est parce que le pétrole avait attiré toutes les familles notables, toutes les familles influentes, structurantes de ces élites. Elle les avait sorties de l'armée pour les emmener vers l'industrie du pétrole. Donc l'armée, finalement, a été laissée aux familles les plus modestes avec un sentiment beaucoup plus prompt à avoir de la sympathie par rapport à, justement, Nasser.
C'est-à-dire, il y a la manne pétrolière qui affaiblit ceux qui auraient pu traditionnellement concurrencer le pouvoir du roi, donc on se méfie, donc qui sont attirés par le secteur privé, et donc l'armée est laissée à des jeunes officiers donc motivé par le panarabisme de ces années-là, et qui vont faire un coup d'État, donc en 1969 que vous avez mentionné, qui est un coup d'État hyper classique pour l'époque, c'est-à-dire des officiers éduqués, laïcs, qui prennent le pouvoir et qui enlèvent une monarchie un peu déliquescente.
C'est ça. Et d'ailleurs tellement classique que ni les Américains, ni les Égyptiens ne voient la chose venir, ni les Britanniques même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ça n'a même pas été une manipulation de Nasser qui est juste à l'Est. Évidemment, il récupère le phénomène dès qu'il existe, mais c'est pas lui qui l'a fomenté. Et les Américains ne réagissent pas. Les Américains, toujours avec ce réflexe wilsonien, pensent que nationalisme arabe, s'il est encore moins monarchique, ça sera encore plus loin du souhait des Européens, donc forcément plus pro-américain, et c'est pas du tout ce qui se passe, évidemment.
Alors justement, parlons-en, à partir de 1969, on entre donc progressivement mais nettement dans l'ère kadhafiste. Bah, commençons par là. Qui est Kadhafi? C'est-à-dire, on sait évidemment que c'est un militaire. On a répété à peu près à chaque fois qu'on prononçait son nom que c'était un colonel pendant 40 ans. Vous nous disiez qu'il était jeune capitaine au moment de prendre le pouvoir. Mais d'où est-ce qu'il vient? Peut-être comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette structure du pays libyen et des différentes régions que vous avez mentionnées? Bon, comment est-ce qu'il prend le pouvoir et surtout qu'est-ce qu'il en fait après?
Il est né dans une famille modeste, pas tout à fait pauvre, pas complètement démunie, pas loin de Sirte. Sirte, c'est un endroit très symbolique parce que c'est le milieu du littoral libyen, donc c'est ni l'ouest ni l'est, et c'est même un petit peu déjà le sud. Il passe son adolescence d'ailleurs, il fait partie d'une petite tribu qui s'appelle Radadfa, et qui existe aussi dans la ville de Sabha. Sabha, c'est la ville la plus importante de ce fameux Fezzan, et c'est là qu'il passe son
Donc
adolescence.
le Fezzan, répétons, c'est le désert au sud-ouest
Oui,
qui
très riche en
communique avec le Sahel.
pétrole, oui, absolument, oui. Et en fait, grâce à cette invention qui fait que la radio se démocratise à travers le transistor, il écoute Nasser pendant toute son adolescence. C'est là qu'il forge son sentiment anti-israélien, pro-palestinien, pan-arabiste, pro-socialiste, voilà, plutôt laïque, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'éducation du jeune Kadhafiste. Et c'est quelqu'un qui naturellement est très 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 charismatique. Il a un don pour le fait de pouvoir retenir toutes les particularités, tous les détails un petit peu ésotériques qui font l'histoire de chaque tribu, de chaque communauté, de chaque ville. C'est quand même un pays énorme. Il n'y a pas Internet à l'époque, donc il a une capacité presque surhumaine, géniale, de se souvenir de toutes les vengeances, les rancunes et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va lui permettre de subvertir et de manipuler tout cela pendant 4 décennies. Et il est suivi par ses camarades de l'académie
Mais alors
militaire.
simplement, c'est lui qui lance le truc ou est-ce que c'est
C'est plutôt collégial, c'est plutôt une bande d'officiers, tous avec une vision. D'ailleurs, il y a le fameux Khalifa Haftar qui est avec lui. Il est complètement.
On aura le temps de largement en reparler
Il est
plus
très
tard.
impressionné, il considère Mouammar Kadhafi comme son frère aîné, mais c'est plus un groupe, hein. La caractéristique de Kadhafi, c'est pas plus de pouvoir, c'est plus de charisme. C'est plus d'éloquence, par exemple, plus de rapidité d'esprit. Et vraiment, le début de l'ère Kadhafi commence en avril 1973. Il donne un discours historique dans la
Donc
ville de
4 ans
Souara.
déjà après le
Voilà.
renversement de la monarchie.
Et c'est vraiment le point de départ. C'est le point de départ de la manipulation du prix du pétrole, la participation très bientôt dans la guerre de Sadat contre Israël. Kadhafi joue un rôle, il essaye d'aider Sadat, et d'ailleurs qu'il le déçoit. Et les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Kadhafi décide de claquer la porte plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est pour moi le début. C'est aussi le début de l'utilisation de symboles religieux. Donc j'ai insisté sur la similarité qu'il présente par rapport à Nasser. Mais par contre, il y a une erreur que Nasser a faite et que Kadhafi se jure de ne pas faire, c'est rester complètement en dehors de la religion. Il est très fort dans la possibilité de vraiment raviver de vieux réflexes, j'allais dire, de la tradition salafiste, en sachant que les frères musulmans sont des ennemis potentiels, en détruisant tous les réseaux soufistes en même temps, en se servant des imams malakites. Et donc c'est
tout
vraiment...
ça, on va
Tout
dire,
ça commence en
tout ça
73.
sont des sous-branches de l'islam sunnite, qui sont, surtout dans ces régions-là, par exemple, les confréries soufis sont des réseaux extrêmement importants et extrêmement puissants. La tradition salafiste l'est aussi. Les frères musulmans, c'est évidemment un mouvement à l'échelle du bassin méditerranéen qui va de la Turquie jusqu'à l'ouest du Maghreb, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est en quelque sorte, il réussit à la fois à affaiblir et en même temps à récupérer
Voilà, il a une lecture politique de tout cela.
cette puissance de ces courants
Voilà.
religieux sunnites.
Il est quasiment en avance sur son temps, dans le sens où il arrive à déchiffrer tout de suite le potentiel politique de chaque organisation, chaque sentiment, chaque faveur religieuse. Il est complètement insensible à son contenu et il voit toujours cela d'une manière tout à fait cynique et manipulatrice. Et il détruit aussi, il commence à aller en guerre contre l'entreprise économique, hein, l'idée que des des familles ou des individus se lancent par le désir de, comme ça, de gagner de l'argent, ils considèrent que c'est une menace pour son système de pouvoir. Donc ils décident que la seule source de revenus pour la Libye va être la rente pétrolière et qu'il ne faut surtout pas avoir de grandes familles commerçantes ou des grandes familles d'architectes ou ainsi de suite.
C'est ce que j'allais dire, c'est aussi un peu un héritage de ce panarabisme, c'est le côté potentiellement socialisant à certains égards, c'est-à-dire cette ambition socialiste, cette ambition de redistribution, et on sait que ça a été, alors après vous allez nous dire ce qu'il en était vraiment, mais que ça a été au moins une fiction de l'organisation sociale et économique du régime kadhafiste, l'idée d'une redistribution, d'un pouvoir par le peuple. Évidemment, on sait que c'est devenu assez rapidement une dictature, mais c'est au moins le vernis d'une dictature socialiste.
Oui, d'ailleurs, il utilisait le mot socialiste, mais je pense qu'il ne correspond pas à la définition. C'est quelque chose de très, très, très particulier, ce qu'il met en place. Et d'ailleurs, c'est un processus continuel. C'est quelqu'un qui improvise, qui ajoute de nouvelles mesures, de plus en plus draconiennes, de plus en plus arbitraires. Il est très destructeur. Donc, c'est pas, je dirais que c'est plus destructeur que la plupart des expériences comme ça socialisantes de l'époque. C'est quelqu'un qui voulait par exemple la destruction physique de certaines familles parce qu'elles étaient représentaient une forme de succès individuel qu'il voulait absolument gommer. Donc pour moi ça n'entre pas dans l'illustration classique de cette volonté d'être marxiste. D'ailleurs il détestait le marxisme par exemple. Il considérait que c'était une menace pour lui. Donc c'est quelque chose de vraiment qu'il arrivait à improviser. Il trouvait toujours une terminologie très originale avec une brutalité derrière qui est quand même très très décapée. Je voudrais pas, c'est pas du tout l'expérience du socialisme algérien à côté qui est autoritaire, mais pas aussi caricatural, si je puis dire. Donc voilà.
Alors il faut peut-être dire un mot maintenant de la position de Kadhafi et du régime libyen sur la scène internationale, notamment. Il faut dire, alors on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais au moins il faut parler d'une séquence qui est importante, c'est la séquence des années 80, où la Libye de Kadhafi s'oppose très frontalement aux États-Unis et notamment au régime de Ronald Reagan, ce qui amène à un certain nombre d'incidents, notamment le bombardement de Tripoli par les Américains en 1986, où Kadhafi est pas loin de mourir sous les décombres, mais aussi des épisodes qui sont restés très longtemps dans l'image qu'a eu Kadhafi sur la scène internationale, des épisodes de terrorisme international, notamment les célèbres attentats de Lockerbie et du vol 772 du TA en 1988 et 1989. Donc, bon, du terrorisme, il fait exploser des avions. En gros, il commandite des attentats à la bombe dans des avions. Donc, peut-être dites-nous quelque chose de cette séquence où clairement, Kadhafi sort de la communauté internationale. En tout cas, voilà, ça devient un État voyou, en quelque sorte.
Oui. En fait, ce qui est quand même frappant, c'est que ça ne se fait pas tellement dans les années 80. Tout ce que vous dites est absolument vrai. Mais je considérerais quand même que le début de tout ça, c'est à peu près à la même époque, 73 toujours. Il a le réflexe. C'est quelqu'un qui ne distingue pas la sécurité intérieure de son régime de la nécessité qu'il ressent d'attaquer tout ce qui est autour. D'aider les terroristes irlandais ou les indépendantistes être présent en Ouganda. C'est-à-dire, d'un point de vue arabe.
Oui, il a soutenu le régime d'Idi Amin Dada. Enfin, il est de plein d'affaires.
Là, par exemple, le Tchad. Pourquoi est-ce que le Tchad a brûlé les ponts avec Israël en 1973? C'est à cause de Kadhafi. Hein. C'était la condition qu'il exigeait. Donc, il avait une
Donc,
très
la condition
bonne
qu'il exigeait à la sortie d'une guerre, d'une attaque libyenne contre le Tchad. Enfin, bon, là,
c'est une invasion.
Ça fait entrer la France aussi dans le. Enfin, on n'a pas le temps d'entrer dans tout ça. Mais
en tout cas, c'est quelqu'un qui a un sens de la politique étrangère. Et ça, c'est de la violence. C'est de la violence à tout va, dans tous azimuts. Et c'est ce qu'on retrouve dans les années 80. Sauf que dans les années 80, les Américains se sentent particulièrement impuissants par rapport à l'émergence de l'Iran théocratique. Et c'est un petit peu pour ça qu'ils s'acharnent sur...
Ils se rabattent sur Kadhafi.
Sur Kadhafi. Kadhafi, pour eux, c'était plus une espèce de boîte de pétri où ils allaient pouvoir montrer que leur force conventionnelle avait encore une pertinence dans l'ère de l'Iran, du terrorisme palestinien et ainsi de suite. C'était une année, une décennie, je dirais, d'impuissance du point de vue américain. Et donc, il fallait taper sur le punching ball de Kadhafi. Et ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que les Italiens, les Maltais, je dirais, les Européens en général ne voulaient pas d'une destruction du régime Kadhafi. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort en avril 86? Il y a une rumeur qui va être sans doute de plus en plus confirmée au fur et à mesure que les archives vont devenir disponibles. C'est qu'il a reçu des avertissements, des ficelles de la part d'aussi bien des Italiens que les Maltais. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait plausible. Et c'est pour ça que finalement, il survit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la lenteur avec laquelle les Américains décident d'en faire un ennemi. Et finalement, quand ils le ratent, en 81, il y a déjà eu des escarmouches en 81, en 86 c'est beaucoup plus important, vous avez raison de le dire. Finalement, quand il aura attaqué et survit, ben, on oublie. Parce que ce n'est pas un vrai ennemi qui obsède authentiquement les Américains. C'est toujours là dans le background, j'allais dire, mais ce n'est pas, au sens géopolitique, ce n'est pas un ennemi numéro un. C'est plus l'endroit où on va pour pouvoir s'illustrer par rapport aux dossiers sur lesquels on se sent impuissant.
Bon, pour autant, il faut dire que 88 et 89 marquent quand même une césure, au sens où, après ces attentats, clairement, la Libye est éjectée de la scène internationale. Il y a des sanctions qui sont massives, etc. Donc la décennie 90 voit Kadhafi complètement hors du jeu à tous les niveaux.
Tout à fait, tout à fait. Là, il emmène plus du tout aussi large. Les sanctions interviennent en 92. Ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que, vous savez, le président actuel du Tchad a été instauré en 90 à travers un alignement très temporaire entre la France, la Libye et le Soudan. Donc c'est intéressant
Donc,
de voir
qu'on quand même un peu pendant
un temps. Il y a un temps de décalage entre Lockerbie en décembre 88 et les fameuses sanctions de 92. Et puis finalement, à partir de 94, il y a des pays comme l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, le Vatican, l'Arabie Saoudite, les Italiens toujours, qui déjà font du lobbying pour qu'on enlève ces fameuses sanctions. Et c'est un processus qui arrive à son terme en décembre 2003.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. C'est bon, pour terminer, on arrive à grands pas vers 2011, mais il y a enfin une dernière phase dont il faut parler, parce qu'on l'oublie souvent. C'est-à-dire, c'est une nouvelle phase à partir du début des années 2000, où Kadhafi change de politique internationale et cherche à revenir dans ce jeu diplomatique international, peut-être aussi pour éviter le sort de Saddam Hussein, avec qui il avait quand même un certain nombre de points communs. Alors, on s'en souvient parfois avec l'épisode un peu, voire très gênant de 2007, où il vient planter sa tente dans les palais de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, etc. Mais il faut dire que ça fait partie de toute une phase de rapprochement très général, où la Libye se présentait comme un allié contre le terrorisme islamique. Et la France y a cru, mais la France est loin d'être le seul pays à y avoir cru, et la plupart des pays occidentaux ont joué un jeu semblable au début des années 2000.
Oui, il y a une autre facette. Je voudrais compléter juste ce tableau très rapide, en ajoutant le fait que, oui, effectivement, Berlusconi, Sarkozy, tous ces gens-là, Tony Blair, ont été naïfs dans cette période. Mais Kadhafi aussi a été naïf. Kadhafi a beaucoup perdu. Il a fait toutes ses erreurs, je dirais la plupart des erreurs cruciales, stratégiques qu'il a faites durant son règne de 42 ans. C'était entièrement concentré dans les dernières années, disons de 2004 à 2011. Par exemple, le fait de libérer les opposants islamistes sous l'influence du Qatar. On pense toujours que le Qatar a commencé à intervenir à l'intérieur des affaires libyennes qu'en 2011. En réalité, ça a commencé en 2005. Et c'est intéressant parce que ça s'est fait à travers ce programme britannico-américain selon lequel il fallait à tout prix libéraliser la Libye. Kadhafi s'était engagé à cela. Il avait peur de retomber sous un régime de sanctions. Et il promettait donc, de facto, contre son gré presque, hein, de libéralisation économique et politique. Et celle qui lui faisait le plus peur, c'est la libéralisation économique. Et c'est pour ça qu'il a fait toutes ces concessions, qui à mon sens sont une erreur, hein, une erreur tactique de son point de vue, c'est de libérer tous ses opposants dans les dernières années, à travers son fils, à travers ce dialogue extrêmement intime, malsain avec le Qatar. Voilà. Donc c'était un triangle entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'ailleurs c'est le Qatar qui a pu permettre à la France de jouer un rôle avec la libération des infirmières bulgares.
Donc rappelons cet épisode complètement sorti d'infirmières bulgares qui sont prises en otage littéralement et menacées de mort, et c'est le grand coup du début du mandat de Nicolas Sarkozy que de réussir à les libérer, et c'est ça qu'il a payé littéralement en termes d'image en étant forcé d'inviter Kadhafi au 14 juillet, puis à l'Élysée. Donc c'est vraiment par le Qatar que Kadhafi revient sur cette scène internationale, ce qui, selon vous, est le début de la fin d'une certaine manière.
C'est le début de la fin, absolument. C'est une série d'erreurs du point de vue de Kadhafi, parce qu'on se souvient d'un Kadhafi absolument odieux, obscène, abusif, voilà, capricieux, mais c'était une période aussi où son système était dégradant et ses fils... faisait erreur sur erreur et il n'avait plus la vivacité d'esprit que je décrivais tout à l'heure dans ces dernières années. Et ça, c'est surtout au nom de cette première intervention, si vous voulez. C'est pas une intervention militaire, c'est une intervention idéologique et économique qu'ont tenté les Britanniques et les Américains. Et ça, ça a porté un coup d'affaiblissement absolument fatal. Et c'est ce qui prépare justement à cette année 2011. Donc je tenais un petit peu à souligner ce qui s'était produit juste avant. مرسالك عني ليش بطا مرسالك غب ولا من جب سلامك لجاني عتاب ولا من مدارت جواب ولا عالمني بخبارك ليش مخاصمني ولا لي عارف هالاسباب ولا ما ظني Tout ça nous amène donc maintenant enfin vers 2011 et la révolte du peuple libyen, la révolte contre le régime de Kadhafi, dans un contexte qu'il faut rappeler très général des printemps arabes et disons que toute la région se révolte contre les dictatures anciennes et héritées. Alors dites-nous peut-être qui se révolte et comment est-ce que la population se révolte, c'est-à-dire selon quels critères et selon quelles motivations, et puis aussi en quoi... On reviendra dessus, mais disons la structure et disons les acteurs de cette révolte s'organisent, notamment par rapport au soutien occidental qui va arriver, puisque évidemment ça va avoir une influence directe sur la période qui s'ouvre après et dans laquelle on se trouve encore dans une certaine mesure. Oui, les révoltes commencent à travers sous la forme de manifestations plutôt pacifiques en janvier. L'inspiration tunisienne, l'inspiration égyptienne sont évidemment un élément déclenchant. C'est la fin d'une décennie qui est un peu bizarre dans le sens où les Libyens sont au courant qu'il y a beaucoup plus de richesses. Je parlais du Sud, le Sud est refait. Il y a pour la première fois des jardins publics, c'est agréable à vivre.
Oui, parce qu'il faut rappeler que, vous l'avez dit, mais Kadhafi rentre dans le jeu, du coup les sanctions se lèvent et du pétrole il y en a toujours autant.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de pétrole et surtout les prix sont très élevés dans cette période. Donc il y a un coup de chance qui a fait qu'il a économisé beaucoup, beaucoup d'argent et il en avait encore pour améliorer vraiment les conditions de vie des Libyens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer pour une autocratie. Parce que à partir du moment où le peuple comprend qu'il y a toujours une amélioration possible et qu'on a un régime qui est lent, inefficace, corrompu, extrêmement corrompu, beaucoup d'argent est volé à travers les différentes étapes, eh bien on se retrouve avec des faux chantiers, des déceptions comme ça très quotidiennes qui s'accumulent. Tout ça dans un contexte d'état policier qui reste toujours extrêmement censeur, extrêmement harceleur, insupportable pour toute personne qui s'intéresse un petit peu à la politique de sa nation. Donc voilà, c'est un petit peu, je veux dire, la richesse extraordinaire des années 2000, c'est finalement un des facteurs catalystes pour ce moment en février 2011. Donc le moment où la révolte, ou en tout cas les manifestations deviennent militarisées, deviennent violentes, c'est le 15 février à l'est, dans la ville d'Al-Baïda, qui est pas loin de Benghazi. Le lendemain déjà, le 16 février, ça arrive à Benghazi. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que ça on le sait, que les révoltes ont soi-disant commencé d'abord à l'Est. Mais vous savez, d'une manière quasiment instantanée, c'est-à-dire au même moment, dès le 17, 18, 19 février, il y avait aussi beaucoup de Libyens dans l'Ouest qui prenaient des risques, à Tripoli évidemment, mais dans des villes, par exemple la grande ville de Zawiya, je dis grande parce que c'est quand même 250 000 habitants à l'ouest de Tripoli, une ville très complexe avec beaucoup de tribus et ainsi de suite. Zintan, une ville que la France connaît bien parce qu'elle a travaillé avec cette petite ville, une ville arabe dans les montagnes amazigh de l'Ouest. Tous ces endroits appartiennent à l'Ouest. Donc finalement, Les révoltes ont eu lieu de manière quasi simultanée à partir de la mi-février 2011. Et il ne faut pas se souvenir de simplement, voilà, d'une naissance simplement à l'Est avec un temps de retard.
Bien sûr, mais du coup, le caractère simultané que vous évoquez pose la question de qui et comment. C'est-à-dire, est-ce que le fait que ce soit si simultané explique qu'il y a quelque chose, disons, de transversal, d'idéologique, que ce n'est pas simplement des groupes qui, en fonction de solidarité ancienne, en profitent. Est-ce que c'est, par exemple, comme en Tunisie, où c'est la jeunesse, enfin, qui se révolte et selon quelle, disons, ligne de fracture, quoi?
Bon, le côté jeunesse est très important, mais à chaque fois que je me suis penché...
C'est une population jeune, la Libye, à cette
époque? Oui, très jeune, elle est aussi jeune que les populations voisines. C'est typiquement, les moins de 30 ans représentent 60% de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est à chaque fois le rôle des gens qui avaient, disons, entre 45 et 65 ans. À ce moment clé, ce point d'inflexion qui est février-mars 2011. À chaque fois que je creuse un petit peu dans telle ville ou telle autre ville, évidemment l'histoire change à chaque fois en fonction des localités, c'est extrêmement ultra-local j'allais dire, mais il y a toujours une certaine cohésion, un sentiment de solidarité de deux générations différentes qui s'autoprotègent, qui s'entraident, qui refusent de se trahir. Pour moi, ce n'est pas tellement un phénomène d'âge, forcément. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas forcément les villes qui étaient les plus délaissées par Kadhafi, qui étaient les seules à se révolter. Il y avait certaines villes, par exemple la fameuse ville marchande de Misrata, 350 000 habitants, avait vécu une décennie tout à fait prospère. Et c'est pourtant elle qui se révolte, une des villes qui se révolte d'une manière la plus dure et la plus radicale. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que finalement les Libyens étaient tout à fait seuls, livrés à cette incertitude de savoir si oui ou non les risques extraordinaires qu'ils avaient pris allaient pouvoir marcher pendant un mois. Donc du 15 février au 19 mars, ils ne savaient pas si oui ou non l'OTAN allait venir à la rescousse, si oui ou non ils allaient recevoir des armes du Qatar, et ainsi de suite. Donc d'un point de vue historique, l'existence de ces 4 ou 5 semaines où les Libyens sont tout à fait seuls face à un régime qui est très bien armé, très bien organisé, avec des mercenaires venus d'Afrique, de Russie, et ainsi de suite, il faut quand même s'en souvenir. C'est pas les Libyens qui se révoltent parce qu'ils savent déjà à l'avance que l'Occident va venir les aider. Ça, c'est très important.
Mais alors du coup, cette révolte, comment elle s'organise? C'est-à-dire autour de quels acteurs? Est-ce qu'il y a des acteurs qui émergent dès maintenant? Est-ce que c'est des acteurs qui jouaient déjà des rôles politiques dans leur coin et qui sentent l'occasion venir? C'est-à-dire comment est-ce que ça se structure?
Bah, d'abord, on parle beaucoup des islamistes. Les islamistes ont été surpris par ces révoltes. Ils n'étaient pas l'avant-garde de ces premiers moments. Je parle vraiment de ce fameux mois entre mi-février.
On peut dire par ailleurs que Kadhafi a toujours mené une relation complexe aux islamistes.
Oui.
Il y a eu une opposition islamiste, mais Kadhafi, on en avait parlé avec Wassim Nasr, employait aussi des islamistes, des anciens islamistes, des vétérans du GIA. Enfin bon, c'était pas Kadhafi, oui. Rempart contre les islamistes.
Oui. Donc ce n'est pas une révolte religieuse, c'est ça que je veux dire. C'est une révolte parfaitement séculière et laïque. Il y a beaucoup de militaires, des gens, disons, des membres de l'appareil sécuritaire de Kadhafi qui veulent sincèrement faire partie de cette révolte, mais pour qui, enfin, voilà, ils sont souvent mal reçus par les autres rebelles. Il y a une défiance qui se fait. Donc ça, par contre, c'est un choc qui est très, très, qui rend tout le monde mal à l'aise, où on ne fait pas confiance aux anciens militaires, aux anciens policiers. Finalement, c'est une classe qui va devenir des élites. En fait, ce sont des gens qui vont très vite devenir des élites, puisque la révolution va fonctionner. C'est souvent des inconnus, c'est souvent des jeunes qui ne représentent rien sur le plan social.
Mais ce qu'il y a, c'est que... en préparant cette émission, je me rappelais qu'il était censé quand même y avoir une sorte d'opposition structurée. C'est ce qu'on a beaucoup dit, notamment la comparaison avec la Syrie a beaucoup fonctionné dans ce sens-là, en se disant ce qui manquait en Syrie et qu'il y avait en Libye, c'était une opposition, un Conseil national de transition libyen qui était censé déjà exister avant. Alors on peut s'épargner tout le chapitre avec BHL en France qui fait qui fait profession de les défendre. Mais enfin, il y a quand même une séquence où il a été dit et répété qu'il y avait une opposition qui était déjà prête à prendre le pouvoir au moment de la chute de Kadhafi.
Oui, d'ailleurs, elle a été organisée sous l'égide du fils de ce qui était censé être l'héritier de Kadhafi, Saïf al-Islam al-Kadhafi. Mais encore une fois, ce qui s'est passé était d'abord dominé par le caractère violent de ce choc que j'essaie de décrire, plutôt que tout ce qui avait été prévu. Hein. Les scénarios qui avaient été prévus jusque dans les dernières astuces qui avaient été un petit peu improvisées par le pouvoir pour essayer de manipuler la révolte, rien de tout cela n'a eu lieu en conformité avec les différents calculs. Ce qui a vraiment prévalu, c'est cette brutalité, ce côté choc. Choc violent, sanguinaire, avec beaucoup de morts. Et c'est seulement une fois que le premier choc s'est fait que les gens ont compris qu'il fallait, par opportunisme, rejoindre la révolution. Et donc, c'est, voilà. Et donc tout ça s'est passé dans ce fameux mois. Hein. Par exemple, le conseil de transition que vous décrivez a été créé le 28 février. Donc, vraiment au milieu pile de ces quatre semaines. Et à partir du moment où l'OTAN intervient, là, par contre, on sait que très vite, les Libyens comprennent que Kadhafi ne va sans doute pas survivre.
Mais alors justement, comment est-ce que, toujours pour rester sur cette idée de, voilà, même pas d'une transition, mais d'acteurs politiques qui émergent, enfin du fait qu'il se passe quelque chose et donc il faut trouver des gens pour l'incarner, comment est-ce que ça s'est structuré par rapport à l'aide justement étrangère, à l'aide otanienne? Ce que je veux dire, c'est, on sait que ça a été quand même essentiellement des frappes aériennes, bon, sous un mandat de l'ONU de protection des civils. Mais c'est pas un secret que assez rapidement c'est devenu autre chose. Il y a eu des forces spéciales occidentales, il y a eu des conseillers militaires avec tous les guillemets qu'on peut mettre toujours là-dessus. Il y a eu des livraisons d'armes aussi à la rébellion. Donc en quelque sorte, qui est-ce que les pays étrangers, alors occidentaux mais aussi arabes, ont choisi comme acteurs pour porter cette action et in fine ce renversement de Kadhafi?
Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'objet qui est intervenu, cette énorme coalition, hein, qui se disait la coalition de l'OTAN, mais il y a beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'OTAN qui appartenaient à cette coalition, n'était pas une famille harmonieuse qui était d'accord sur ce qu'il fallait faire, accomplir dans cette Libye post-Kadhafi. Ils ne savaient même pas s'il fallait éliminer Kadhafi. Donc il y avait une forte différence entre ce que le Qatar avait à l'esprit et ce que la France, qui se disait amie très proche du Qatar, avait à l'esprit, par exemple. Il y avait déjà une inimitié entre les Émirats Arabes Unis, qui ont fait partie des avions qui ont bombardé aux côtés de l'OTAN. Les forces de Kadhafi en 2011 étaient allées en grande partie pour venir contrecarrer le Qatar. Donc c'était une famille dysfonctionnelle qui était déjà rongée à petite échelle par les mêmes antagonismes qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui évidemment ont été amplifiés au centuple. Et la rébellion elle-même était divisée dès le mois de début mai 2011. Il y avait déjà une guerre civile qui avait commencé au sein de la rébellion. Je dirais très simplement, il y a les rebelles conservateurs, prudents. On s'est dit, voilà, on va décapiter le régime, se débarrasser de Muammar Kadhafi et de ses fils, et conserver l'ordre social, conserver finalement les institutions
et, l'appareil d'État,
et les privilèges et la distribution des postes, etc. L'appareil d'État, mais surtout les strates sociales. Et il y avait l'autre moitié, celle que j'appellerais la rébellion révolutionnaire, donc tout à fait radicale, très dure, qui voulait absolument tout changer, qui considérait que la mort de Kadhafi n'était que le début, que c'était seulement là qu'on commence à se chauffer, et vraiment absolument changer toutes les facettes du système libyen. Et c'est le début de la guerre civile qui continue à ce jour.
Bah voilà. Donc,
et par rapport justement au rôle des États, vous avez très justement souligné le fait d'envoyer des forces spéciales occidentales, de distribuer voilà, une dizaine de tonnes d'armes ici, une dizaine de tonnes d'armes là. Mais pour moi, cela, c'est légitime. Ça s'est fait dans les règles de l'art. On sait très bien qu'on ne peut pas avoir strictement que des frappes aériennes. Par contre, je souhaite quand même mettre toute l'emphase que je peux sur ce qu'a fait le Qatar. Le Qatar a distribué plus de 20 000 tonnes d'armes. La France
elle les a distribués à qui?
Elle les a distribués qu'aux islamistes et aux révolutionnaires durs. Donc si vous êtes un ancien militaire ou si vous avez un projet plutôt, disons, séculier, relativement parlant, eh bien, la quantité, le pourcentage d'armes qatari qui vous atteint est plutôt proche de 0%. Et ce favoritisme très idéologique n'était pas prévu. C'était pas un complot entre la France de Sarkozy, qui est connue pour sa fameuse proximité très personnelle avec Doha. Ça faisait pas partie de ce que la France souhaitait. D'ailleurs, les services français ont commencé à s'alarmer de l'improvisation qatari très tôt. Hein. C'est comme ça que finalement les Français, quand ils envoyaient des armes, là pour le coup c'était pour les anti-islamistes, parce qu'ils voulaient un petit peu rattraper la sauce et contrecarrer cette action au sol qu'on ne pouvait plus arrêter, c'était trop tard. Ni les Américains, ni les Français ne pouvaient arrêter cette idée que le Qatar ne faisait pas ce qu'on lui avait demandé. Ne faisait pas tout ce qu'il disait. Et on ne pouvait pas finalement sous-traiter la Libye auprès d'un pays du Golfe. Ça, c'était déjà une mésaventure assez amère qui avait déjà, si vous voulez, gâché d'une certaine façon le bon déroulement de 2011. Le comportement de l'OTAN, moi je suis plutôt un défenseur de comportement de l'OTAN. Il y avait évidemment des victimes innocentes qui ont été touchées, etc. Mais il y avait très peu de bavures. Ce qui a été fait dans les règles de l'art. C'était très bien fait. Il y avait un souci de frapper simplement ceux qui étaient ciblés, et donc les méchants, si je puis dire. Par contre, là où ça a complètement dérapé, c'est l'action au sol d'un État qui n'est ni européen, ni membre de l'OTAN, qui est un État du Golfe, qui s'appelle le Qatar.
Bah alors justement, puisque vous soulignez ce critère-là, comment dire, à quel moment est-ce que ça commence à cristalliser en quelque sorte. C'est-à-dire, vous décrivez ces livraisons d'armes, etc., ce fait que tout le monde commence à être de plus en plus armé, mais quand et comment est-ce que ça a dérapé vraiment sur le terrain? C'est-à-dire, on voit, vous exposez les lignes de clivage, de fracture au sein des différents révolutionnaires, disons, libyens, enfin, en tout cas de la rébellion libyenne, mais est-ce que c'était clair dès le début que tout le monde voulait se taper dessus en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a eu quand même un moment où tout le monde a vécu, bon, dans l'espoir ou dans l'illusion, qu'il pouvait y avoir un nouveau régime relativement fonctionnel et qu'on pouvait faire une transition à peu près efficace. C'est-à-dire, quand est-ce que ces facteurs-là que vous décrivez vraiment se ressentent dans un État, une situation, une société qui devient vraiment non seulement fracturée, mais vraiment dysfonctionnelle?
Les acteurs le savent très vite. Je dirais, comme je le disais tout à l'heure, dès le début mai. Donc voilà, les premières frappes de l'OTAN, c'est le 19 mars. 1er mai, on sait déjà que ça va très très mal. On sait déjà qu'il y a une guerre civile à l'intérieur de la rébellion. Il y a le fameux meurtre du général Wanis en juillet. C'est un général qui appartenait à la rébellion, qui est tué par une autre faction de la rébellion. Donc, et par contre, on maintient les apparences. C'est-à-dire que le public occidental ne le sait pas. Le public, si vous voulez, les civils libyens, ne le savent pas, ils sont trop préoccupés par la guerre officielle, c'est-à-dire la guerre entre la rébellion et le régime, hein, qu'il faut quand même mener et gagner, hein, on le sait qu'à partir du mois d'octobre. Mais disons que tous les acteurs qui appartiennent aux différentes structures de la rébellion savent qu'il y a une guerre civile qui a commencé. Et les États qui les soutiennent, en tout cas les États du Golfe, qui sont très importants, qui vont rester importants jusqu'à aujourd'hui, savent aussi que Kadhafi va sans aucun doute tomber et qu'il faut quand même plutôt venir saper et abîmer et affaiblir les autres factions de la rébellion. Donc la guerre civile, pour moi, commence en mai 2011.
Mais ce que j'allais dire, c'est que quand même, ça dure un moment. Enfin, je veux dire, il y a des élections, quoi. Il y a des élections en 2012. Enfin, si on organise des élections, c'est... Bon, on peut dire que c'est une mascarade, mais enfin, en tout cas, il semble... En plus, je crois qu'il y a eu un taux de participation relativement élevé à ces élections. Donc en tout cas, il y a... Au moins, pendant un certain temps, on peut caresser un espoir à certains niveaux de la population et même des décideurs qu'il y a quelque chose qui peut s'enclencher et qui peut marcher.
Oui, à ce propos, vous avez raison évidemment de parler des élections de juillet 2012. Hein. La littérature de sciences politiques est très claire là-dessus. S'il y a une guerre, même si elle se finit, une guerre civile, il ne faut pas organiser d'élections trop tôt parce que les gens sont encore armés. Donc les perdants vont... saisir la Kalachnikov qu'ils ont dans leur chambre à coucher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc finalement, il y a cette parenthèse qui est assez extraordinaire, qui m'importe beaucoup, entre fin 2011 et les élections. Là, tout fonctionne. Les universités fonctionnent, les aéroports fonctionnent, les étrangers peuvent se déplacer très facilement, les journalistes sont présents, le système bancaire fonctionne, le marché noir de la devise est quasiment identique au taux officiel, donc ça veut dire qu'un système financier qui fonctionne parfaitement. La production de pétrole est à 1,6 million de barils par jour, donc très élevé. C'est vraiment Disneyland. Mais évidemment, les fractures, les frictions, les amertumes que je soulignais tout à l'heure ont lieu dans la sphère politique. Et c'est après l'élection, ce qui se passe, c'est que une autre bêtise a été faite, c'était de salarier tous ceux qui prétendaient avoir participé à la révolution de 2011. Donc ceux qui ont véritablement participé, se comptaient au nombre de 25 000, 30 000, allez, maximum, ceux qui ont prétendu à ce salaire, Évidemment, leur nombre a atteint 200 000 à peu près. Donc on se retrouve avec beaucoup de milices qui sont nées après la mort de Kadhafi et qui n'avaient pas forcément un agenda politique. Ce qui s'est passé après juillet 2012, c'est que ces deux univers se sont associés. C'est-à-dire que chaque parti politique qui s'est avéré trop faible dans le cadre des élections, eh bien, s'est armé, s'est accoquiné avec une milice qui venait imposer ses désirs en son nom, puisqu'elle ne pouvait pas gagner par les voies démocratiques.
Mais alors justement, parlons-en, vous avez sorti le mot, quoi. Dans une large mesure, ce qui caractérise les troupes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on désigne généralement comme ces milices libyennes. En même temps, c'est un mot relativement utile, puisque ce sont des civils qui s'arment même pour essayer d'imposer un ordre dans la rue. Mais en même temps, il me semble qu'il y a aussi un truc flou, c'est que en les désignant par un mot valise, il me semble qu'on réunit des organisations de taille d'organisations très différentes. Donc, comment dire? Déjà, quand est-ce qu'elles émergent vraiment? Ensuite, qui est-ce que c'est et comment est-ce qu'elles s'organisent vraiment au sein de la société libyenne, et quand est-ce qu'elles prennent vraiment de l'importance dans la rue, quoi?
Elles commencent vraiment à se multiplier après la chute de Tripoli fin août 2011. Et il y a un moment très important, c'est novembre-décembre 2011.
Juste, milice, la définition de base, c'est qu'elles sont armées.
Je n'aime pas ce mot.
Mais simplement, avec quelles armes? C'est-à-dire, est-ce que c'est directement les armes qui viennent des Occidentaux? Est-ce que ce sont une société qui est naturellement armée traditionnellement? D'où est-ce qu'elles viennent?
Non, la société n'était pas armée du tout. Par contre, il y avait une quantité d'entrepôts et vraiment un arsenal, si vous voulez, de Kadhafi qui était absolument disproportionné par rapport à la taille de son armée. Son armée officielle était extrêmement faible, petite, délaissée d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue du prestige social. Par contre, le nombre d'inventaires cachés ici et là qui ont été saisis par les rebelles est absolument extraordinaire. L'OTAN a essayé d'en détruire quelques-uns à travers des bombardements bien ciblés, mais je dirais qu'il y a l'équivalent de, je sais pas, quelque chose comme 250 000, en Kalachnikov si vous voulez, en AK-47, c'est l'équivalent de 250 000 ou 300 000 fusils. Et à cela, il faut ajouter un autre raz-de-marée d'armes, c'est celui du Qatar. Donc là, on ajoute encore 150 000 ou 180 000 Kalachnikov. Donc vous voyez, c'est la convergence de deux tsunamis d'armes. L'arsenal de Kadhafi qui a été saisi par la rébellion, parce que c'était quelqu'un qui était absolument obsédé par le fait de cacher des inventaires ici et là, tout ça a été saisi, tout ça a été découvert, c'était en bon état, utilisable. Misrata, aujourd'hui, en 2020, conserve les inventaires qu'elle a saisis en 2011, et c'est ce qui, en partie, fait sa force. Et il y a aussi les injections extérieures. Donc c'était un petit peu un scénario catastrophe qui s'est fait. Et par-dessus ça, vous ajoutez un raz-de-marée de dollars, d'argent. C'est-à-dire que vous les payez, vous leur donnez un semblant de reconnaissance officielle, une aura d'utilité sociale.
Oui, par cette mesure que vous avez décrite de « on va salarier tous ceux qui ont dit faire partie de la révolution ». Donc en fait, vous salariez vos milices, quoi.
Oui, pour les apaiser. Donc c'est vraiment l'erreur classique, c'est-à-dire, puisqu'on va les gaver d'argent et donc ils vont se calmer et laisser... Et c'est évidemment le contraire qui s'est passé, parce que ça agit comme une espèce d'injection de capital qui leur a permis de croître en tant que business, de s'improviser dans d'autres activités illicites.
Mais alors du coup, je vous ai interrompu, mais vous disiez que vous n'aimiez pas le mot de milice, donc comment décrire ces groupes?
Oui, le mot milice, en arabe libyen, c'est les milichiyet, et c'est une insulte. Donc quand on dit milichiyet, ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains groupes armés sont gentils et d'autres sont méchants. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire analytiquement. Il faut accepter que c'est juste une constellation très très diverse de groupes armés. Et rester avec ce mot très 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 sec et très neutre qui dit voilà, si vous avez des groupes qui n'obéissent pas à une hiérarchie centralisée d'un État qui ressemblerait au Danemark, c'est-à-dire avec une transparence verticale parfaite, eh bien ce sont des groupes armés. Tant qu'ils ont leur agenda individuel et qu'ils n'obéissent pas forcément à la loi, eh bien ce sont des groupes armés qui ressemblent à des formations.
De quoi? C'est des quartiers? C'est des confréries? C'est des familles?
Il y a absolument tout. Il y a des familles qui ont commencé par protéger leur quartier à titre plutôt légitime et qui, une fois ils ont découvert qu'ils étaient plutôt solides et efficaces, et bien ils ont fait des activités extracurriculaires pour arrondir les fins de mois. Il y a l'inverse, il y a parfois des groupes parfaitement bandits, des gens qui ont même un historique de gangstérisme avant 2011 et qui, à travers la révolution, avaient l'intention de continuer sous forme de gangsters, mais finalement se sont retrouvés avec une mission par rapport à leur communauté qui était finalement très légitime, très noble, et qui a changé leur image, mais d'une manière justifiée, j'allais dire. Donc c'est vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas deux, trois catégories, il y a plutôt 20 catégories, et encore, ça continue. Il y a aussi des groupes qui sont inspirés par leur, disons, leur doctrine religieuse, hein, une mission, par exemple les salafistes conservateurs, puristes, qui ont un sens de la sécurité, un sens de la police, un sens de la protection de la communauté, de leur quartier, avec toujours une tendance quand même à se livrer à des activités illicites sur le côté, mais c'est une approche complètement différente de celle des frères musulmans qui s'intéressent très peu aux problèmes de sécurité interne, de police, de quartier, et ainsi de suite. وشافني كاين كيف احسن منا عيز باع الدنيا في حياته خايب ظنا مش منا من واقعنا اللي مهبلنا البؤره ما ترحم حد قليل من ينجى منا اما انا بالنسبه ليا ماسك بالدموع تداس العبره والنفس طايق الضوء يا مستمعنا شوف وقعنا شوف شارعنا كل دخان وضعنا فتنا الموضوع كلنا بالنسبه ليا Maintenant, puisque vous en avez parlé aussi, c'est le deuxième mot que j'aimerais qu'on réinterroge après le mot de milice qu'on vient de faire, c'est le mot d'islamiste. C'est-à-dire, on a discuté déjà avec Wassim Nasr il n'y a pas très longtemps de l'importance de la chute de Kadhafi dans l'émergence d'Al-Qaïda puis de l'État islamique en Afrique du Nord et au Sahel. Mais donc il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas juste une vue de l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît toujours un peu problématique de qualifier des groupes, voire des pans entiers de la population d'islamistes, quand globalement, en fait, beaucoup pourraient se reconnaître dans l'idée de une révolution politique avec une grosse partie d'islam dedans. Et il y a un gros gradient quand même entre des acteurs locaux qui se reconnaissent dans cette identité et puis des groupes intégrés à des galaxies djihadistes internationales. Donc qui est-ce que c'est, ces islamistes? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment est-ce qu'ils répondent peut-être aussi à une actualité internationale? Et comment est-ce qu'on intègre à tout ça? Je vous pose la question au passage, mais un événement majeur à plusieurs niveaux, qui est la prise du consulat américain à Benghazi le 11 septembre 2012, et l'assassinat au passage de l'ambassadeur américain. Donc, comment dire, comment entrer, au-delà de ce mot bas, vitrine d'islamiste, dans ce qui se passe au sein de la société libyenne? Oui, bah vous avez soulevé vraiment les bons concepts et les bonnes questions. Il y a deux questions que je voudrais quand même mettre en valeur ici. Quand on dit islamisme, c'est quoi ? D'un point de vue de la science politique, c'est le fait de l'utiliser un argument religieux dans un contexte politique, surtout dans un contexte réformiste, c'est-à-dire qu'on souhaite modifier la société et on se sert comme d'un vecteur, en tout cas d'un argument, l'aura de toute une... toute une doctrine qui aspire à une légitimité religieuse. Ça, c'est de l'islamisme. Donc, le côté radical ne fait pas partie de la définition de l'islam politique. On peut avoir de l'islam politique modéré, ou moins modéré, voire radical et extrémiste. Et ça, c'est une décision que tout analyste doit prendre, vraiment, je dirais, en amont. Est-ce qu'on accepte l'existence de l'islam politique modéré, ou est-ce qu'on considère que tout islam politique est forcément un chemin vers l'extrémiste le plus meurtrier? Donc, par exemple, je dirais que le gouvernement actuel au Caire, en Égypte, évidemment, ne tolère pas la notion d'islam politique modéré. L'islam politique est forcément, par définition, extrémiste. C'est la même définition aux Émirats, c'est la même définition en Syrie, et c'est une tradition qui remonte, je dirais, à Nasser, finalement. Et un politologue peut décider que des modérés existent avec qui on travaille. L'autre question, ou en tout cas le test, si vous voulez, le critère que vous avez mis en exergue, qui est très, très, très utile, c'est est-ce que c'est une aspiration transnationale, ou est-ce que c'est local, ou en tout cas nationaliste, c'est-à-dire qu'on veut améliorer son pays. Il se trouve qu'on se sent bien avec cette idéologie qui est donc fortement religieuse, mais que on n'est pas forcément complice avec des réseaux transnationaux. Ça, c'est un critère très très important, parce que finalement, c'est une guerre civile, c'est-à-dire que votre ennemi va être armé. Le fait que vous soyez armé n'indique pas forcément que vous êtes extrémiste, en tout cas en train de vouloir faire sauter le World Trade Center. Et donc, c'est un petit peu ces deux considérations que je voulais juste mettre en jeu ici, parce que ça permet de voir un petit peu les enjeux. Il y a beaucoup, beaucoup de voix, notamment concernant la Libye, qui refusent de faire ces nuances-là. Et la raison pour laquelle ces gens-là refusent, c'est parce qu'ils ont un motif, si vous voulez, un agenda politique très, très précis. Ce sont des gens qui sont conservateurs, qui ne veulent pas que les sociétés arabes sunnites soient modifiées, d'une manière très générale. Qu'elles soient modifiées d'une manière graduelle ou violente à travers un phénomène de révolution, voire d'actes djihadistes, pour eux, finalement, ça revient au même. On ne veut pas changer. On ne veut pas changer les privilèges, on ne veut pas changer la distribution des postes, des avantages, et ainsi de suite. Donc ces gens-là vont être, évidemment, automatiquement opposés à toute forme de réforme. Et comme la version religieuse de ces courants réformistes les mieux organisés sont les mieux organisés, donc finalement on n'a qu'à dire l'islam politique c'est forcément extrémiste, ça mène toujours à Daesh, donc nous allons combattre toutes ces nuances là au même titre. Et c'est ce qu'on voit en Égypte, c'est ce qu'on voit aux Émirats, en Arabie Saoudite avec le prince Mohammed Ben Salman et évidemment avec Assad. C'est pas une réalité analytique, c'est juste un discours tout à fait politisé et manipulateur. Et il faut choisir son camp là-dedans. Tout cela était, évidemment, des extrémistes existaient au lendemain de 2011, pendant 2011. Il faut dire aussi que c'était un moment d'euphorie par rapport au théâtre syrien. Certains États occidentaux voyaient d'un bon oeil qu'ils étaient au courant de surplus d'armes que je soulignais tout à l'heure. Si une partie pouvait aller vers la rébellion syrienne, peu importe qui va être le canal entre les deux pays. Et puis finalement, ceux qui étaient les plus efficaces étaient évidemment liés plutôt à Al-Qaïda et ainsi de suite. Donc il y a eu quand même tout ce flottement que représente l'année 2012, où les Britanniques, les Français, les Américains n'étaient pas pressés de venir interrompre le flux d'armes. Et ça renforce les réseaux. Ça donne une légitimité de deux côtés, et surtout en Libye, où finalement personne ne fait attention. Les Américains ne veulent pas répéter l'erreur de l'Irak, où ils étaient trop impliqués, donc ils ne sont pas du tout impliqués, vraiment très distants. Les Français sont un petit peu distraits. Et donc, il faut dire que ce qui a tué l'ambassadeur Chris Stevens, c'était vraiment des extrémistes. Et c'est des extrémistes avec une dimension transnationale qui ne faisait pas dans la dentelle. Et tout cela existait. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous faites pour les combattre ? Est-ce que vous les combattez avec une définition très conventionnelle de la sécurité ? C'est-à-dire que vous voulez vraiment neutraliser ces courants-là, en sachant que pas très loin, il y a d'autres courants qui sont plutôt sincères dans leur caractère modéré, leur attachement à leur ville, à leur communauté, à leur pays, qui ne sont pas du tout transnationaux et qui ne sont pas forcément extrémistes. Ou est-ce que vous profitez de cela pour faire une pierre deux coups, parce que vous avez une incitation à attaquer tout cela en même temps? Si vous le faites, vous allez avoir une légitimité vis-à-vis de vos parrains étrangers qui va faire que vous allez toujours être payé, toujours soutenu, avec une couverture diplomatique, etc. Et vous allez pouvoir devenir chef d'État in fine. Donc voilà, il y a une manipulation de la réalité, si vous voulez, extrémiste, qui est indéniable. C'est comment l'approcher qui va faire la différence. Quelle démarche on va adopter?
Alors justement, de ce point de vue-là, il faut dire un mot maintenant d'un événement très important qui a eu lieu en 2013. Pas en Libye, mais qui a une très grosse importance sur la Libye, qui est le coup d'État en Égypte voisine du maréchal Al-Sissi, qui chasse les frères musulmans de Mohamed Morsi du pouvoir. Mais c'est évidemment regardé de très près en Libye, et dans une certaine mesure, je crois que ça cristallise un peu les lignes de fracture, et en tout cas, ça les tend encore plus, puisqu'on sent que ce qui s'est passé en Égypte pourrait se repasser incessamment sous peu en Libye.
Oui, tout d'abord, la Libye, elle est vraiment dans une direction très inquiétante, indépendamment de l'Égypte. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est l'Égypte qui vient raviver ou en tout cas exacerber les blessures. Les blessures étaient en train de s'approfondir et des abus étaient commis et par le côté révolutionnaire, pas le côté conservateur. Mais du côté conservateur, en tout cas les gens qui ont compris que finalement il valait mieux corriger, comme on dit, la révolution, donc adopter une narration plutôt contre-révolutionnaire. La raison pour laquelle juillet 2013 a été un véritable séisme, une véritable révélation pour eux, C'est que premièrement, ils savaient que tant que l'Égypte n'était pas, entre guillemets, résolue, tous les États étrangers qui étaient susceptibles d'être actifs en Libye allaient être complètement absorbés par l'Égypte. Parce que si vous avez le choix entre régler un problème de 100 millions d'habitants ou 6 millions d'habitants, évidemment, vous allez mettre toutes vos ressources pour le fait d'arriver à une espèce de solution plutôt stable pour les 100 millions d'habitants. Une fois que c'est réglé, la focalisation des efforts, évidemment, se porte immédiatement sur la Libye. Donc les élites, si vous voulez, les diverses élites libyennes étaient évidemment au courant de cela. Et l'autre chose que ça a fait l'Égypte, c'est que ça leur a, disons, ça leur a digéré, ça leur a préfabriqué leur narration. La narration qui a été adoptée par le maréchal Haftar en 2013-2014, c'est pas lui qui l'a inventée. Il l'a juste récupérée auprès de l'Égypte et l'Égypte l'avait récupérée auprès du Golfe. Donc, et c'est quoi ? C'est cette astuce. C'est le fait de ne pas tolérer, ni même entrevoir, ni même envisager l'existence possible, ne serait-ce que même théorique, qu'on puisse être un acteur partisan de l'islam politique et modéré à la fois. Voilà, il rejette sous forme d'axiome que ce n'est pas possible. Et c'est la grande astuce rhétorique, si vous voulez, du maréchal Haftar. C'est quelqu'un qui avait agi dans un contexte similaire quand il était opposant à Kadhafi au Tchad. Il savait que si on peut cristalliser le soutien d'États étrangers, ben ça devient une espèce de vache à lait. Le soutien ne s'arrête jamais, ça ne tarit jamais. Et donc, c'est pour ça qu'il était un petit peu en avance sur ses compères.
Alors parlons-en maintenant, évidemment, on a repoussé, parce qu'il fallait parler de cette situation autour de 2011 et dans l'après-coup de 2011, puisqu'on est encore exactement dans ces lignes de fracture-là. Mais il faut évidemment parler de ce personnage émergent, très important, dominant peut-être à l'heure actuelle, qui est le fameux général Haftar. Alors déjà, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, vous avez évoqué ses liens avec Kadhafi, là vous avez évoqué son passé au Tchad, mais simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui sait, ce qu'il faisait jusque-là, jusqu'à la chute de Kadhafi, et puis pourquoi et comment est-ce qu'il arrive donc à prendre un rôle de premier plan. Je crois que c'est aussi assez lié, il va falloir en parler aussi, avec la situation de Benghazi, qui est vraiment la poudrière d'où émerge le général Haftar.
Oui, alors c'est quelqu'un qui a toujours voulu prendre le pouvoir à l'échelle nationale. C'est ce qu'il voulait quand il était aux États-Unis. Je rappelle qu'il s'est vu offrir la nationalité américaine en 1991.
Au départ, c'était un camarade de Kadhafi.
Qui a été capturé du fait de son incompétence, il faut le dire, sur le terrain au Tchad. Il a été capturé par l'ami de la France à l'époque qui s'appelait Issam Abré, hein, le président tchadien, les forces tchadiennes, je devrais dire. Il a été capturé. Le programme, ça consistait à le torturer, le garder, le laisser pourrir dans une prison. Les Américains voulait depuis plusieurs années avoir un anti-kadhafiste sur le territoire tchadien pour pouvoir mener une espèce d'incursion et venir perturber donc le pouvoir. Ils l'ont dit, voilà, tu as le choix, soit tu pourris en prison et on continue à te torturer, soit tu prends les 400 soldats libyens que tu as avec toi, plus de quelques-uns qu'on a déjà au Tchad, et puis tu les formes, on t'envoie en Irak sous Saddam Hussein, sous ce programme américain. Il était censé constituer une petite armée de contrats, hein, contrats révolutionnaires, pour récupérer une terminologie qui était employée, qui provient du Nicaragua. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait.
Ça a tellement bien marché au fil de l'histoire pour les États-Unis que
oui. D'ailleurs, il ne le fait jamais, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est quelqu'un qui, finalement, au fond de lui-même, veut se réconcilier avec Kadhafi. Il n'est jamais un anti-kadhafiste redoutable. Il se retrouve, le pauvre, en 91, après la fin de la guerre froide. Plus personne ne s'intéresse à ce genre de personnage. Il a techniquement la nationalité américaine. Il n'apprend jamais l'anglais. Il va passer des années et des années aux États-Unis à vivre reclus. Voilà, il a la possibilité de revoir sa femme en 93 grâce justement à un contact facilité par les Égyptiens avec Kadhafi. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est obsédé de, voilà, c'est pas un Che Guevara
c'est pas Khomeini face au chat, quoi.
Du tout. Et d'ailleurs, en 2010, il est déjà complètement réconcilié avec Kadhafi. Il ne rentre pas en Libye parce qu'il a quand même un petit peu peur, mais disons qu'il reçoit sa pension de militaire. Ses enfants, 6 sur 7 enfants, vivent à Benghazi tranquillement, pas du tout harcelés par le régime. Et quand février 2011 fait irruption, eh bien, il décide de rentrer avec quelques semaines de retard. Mi-mars, il arrive à Benghazi, il retrouve ses fils. Et là, ce qu'il veut, même s'il a ses attaches, c'est quelqu'un qui ne vient pas vraiment de l'Est, hein, il a des racines du côté de Tripoli, mais son obsession, surtout à partir de fin 2011, il est à Tripoli, 2012, il essaye vraiment de trouver une attache à l'intérieur de Tripoli. Et là, il est un petit peu la risée de tous. Il est maltraité par tous les autres rebelles. Il représente finalement le kadhafisme, alors qu'il s'était cassé la tête à participer à la révolution. Et il est finalement éjecté de Tripoli. Il réessaye en février 2014. À Tripoli, ça ne marche pas du tout. Et c'est seulement là qu'il décide de réunir les 200 soldats qui lui sont loyaux pour faire une mission vers le centre de Benghazi et être parmi les premiers à vraiment affronter comme ça, d'une manière directe, les brigades islamistes qui...
Parce qu'il faut dire que Benghazi, à cette époque-là, est un champ de bataille absolu.
Champ de bataille, c'est plus le désordre, la peur, les assassinats.
La situation sécuritaire est dégradée à un point...
Mais ce n'est pas une guerre. C'est plus une situation d'anarchie, d'impunité, avec des juges, des policiers, des anciens fonctionnaires qui sont tués d'une manière tout à fait impunie. Mais c'est pas Alep aujourd'hui, enfin, c'est pas une guerre. Et la personne qui décide d'avoir le courage d'aborder cela comme une guerre, c'est finalement Haftar. Et c'est dans un contexte régional où déjà il commence à recevoir une aide médiatique, idéologique, financière de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Les Émirats ne sont pas encore présents dans la formule.
C'est ce que j'allais dire, c'est pour s'imposer sur une scène aussi déstructurée, même si bon, c'est les seuls organisés dans une scène déstructurée, enfin, il reste que ce que vous décrivez, c'est que tout le monde est armé, personne n'est d'accord, tout le monde se bat. Donc, c'est-à-dire pouvoir débarquer dans cette scène-là, un peu comme le cheveu sur la soupe, et réussir à structurer, à ramener l'ordre, il faut des moyens, oui. Il faut des soutiens.
Oui.
Et comment... Qui est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'ils choisissent Haftar ?
Ils choisissent Haftar parce que...
Donc vous l'avez dit, c'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte.
Oui, alors là, ils sont plus dans un mode expérimental. C'est-à-dire que c'est un peu une pépinière, quoi. S'il y a une figure qui veut bien proposer ses services pour une petite expérience, on va lui donner un peu d'aide médiatique, comme je disais, un petit peu financière. Même pas des armes. Enfin, il suffit de l'argent pour retrouver des armes en Libye, c'est pas compliqué. Donc c'est plutôt une phase expérimentale. Et là, ça prend. La mayonnaise prend avec Haftar parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement, je dirais, rigide. Et d'un point de vue strictement mathématique, si votre but c'est de plaire à des sponsors étrangers, des parrains étrangers, il vaut mieux ne pas faire dans les nuances. Plus vous allez être rigide et vraiment complètement frontal, vous allez plaire forcément dans un système où ce qui va faire la différence, c'est l'enthousiasme des États étrangers.
C'est-à-dire, en quelque sorte, dans la situation si compliquée qu'on détaille depuis plus d'une heure, de ces confettis, ces lambeaux libyens, en quelque sorte, c'est au moins Haftar permet de ne pas trop se casser la tête.
C'est exactement ça. Mettez-vous à la place des États étrangers. Ils ne veulent pas non plus écrire un doctorat de sciences sociales. Ils veulent avoir un vecteur dans lequel, s'ils mettent des pièces, ça fonctionne. S'ils mettent des armes, il va être plus brutal. Il va pouvoir convaincre. Et il est aussi, il faut dire aussi qu'il a un talent, Haftar, c'est qu'il comprend que l'Est, il y a des fractures, là, pour le coup, vraiment très anciennes, entre les différentes tribus qui se perçoivent comme des rivales mutuelles en Cyrénaïque. Il comprend cela, il comprend les déséquilibres entre le milieu urbain et la périphérie qui est beaucoup plus bédouine. Et ce qu'il décide de faire, c'est un petit peu récupérer les astuces de son maître Kadhafi et se servir des populations périphériques pour venir attaquer le centre de Benghazi. Et donc il est quand même, il a compris que l'Est libyen fonctionnait mieux, si vous voulez, d'un point de vue de la cohésion, quand c'est un acteur plutôt étranger. C'est quelqu'un qui a passé 20 ans à l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui a vraiment ses racines dans l'Est libyen, il est un petit peu hybride entre les deux. Donc finalement, ça lui a servi tout ça. Et là, très vite, il commence à recruter. Le flux d'armes de la part de l'Égypte, des Émirats. Les Émirats le découvrent pendant l'été, hein, fin de l'été 2014. Ça prend du temps. Il ne faut pas croire que les Émirats étaient avec lui dès le premier instant. Voilà, le flux d'armes commence. Et là, on se retrouve avec une espèce de phénomène de boule de neige. Et ce qui est très important de noter, c'est que ce n'est pas un parcours héroïque, dans le sens où, à chaque fois qu'il a le choix entre une solution plutôt fine, où il se fait un peu plus ami avec certaines factions qui pourraient prendre pour ennemis et les attaquer, au lieu de faire dans ces solutions un petit peu subtiles et assez fines, qui auraient finalement fait une guerre beaucoup plus brève, plus compliquée mais plus grave, il a choisi voilà, le manque de subtilité au contraire, mettre tout le monde dans un sac, et ça a donné naissance à une guerre qui a duré 39 mois. Entre mai 2014 et décembre 2017, c'est quand même beaucoup de temps, il y a plus de 8000 morts, la ville de Benghazi est quasiment entièrement détruite, à ce jour elle n'a pas été reconstruite. Donc voilà, ça, on retrouve l'aspiration, l'ambition et les vœux politiques de Haftar. C'est un personnage politique, ce n'est pas un personnage sécuritaire.
Oui, on va peut-être dire que ça se solde effectivement par bon, un cessez-le-feu, quoi, qui immobilise un peu la situation. Alors, un premier cessez-le-feu en décembre 2015, un accord à Skhirat.
Oui, ça c'est vis-à-vis de Misrata et de Tripoli. Donc là, c'est vrai que vous introduisez d'un seul coup la dimension, c'est la rivalité qui existe entre Maréchal Haftar et ses ennemis à Tripoli et à Misrata. Mais et ce qu'on vient de couvrir au cours des quelques minutes qui viennent de s'écouler, c'est la guerre qui lui a permis justement d'attirer tous ses parents étrangers, c'est-à-dire la guerre de Benghazi. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était tout. Il voulait les deux, mon capitaine. Il voulait aussi devenir président de la Libye.
Bon, on voit cette scène, on voit que Haftar est un propre personnage qui a un agenda, qui a un objectif, mais qui a aussi des soutiens, et que ça marche parce qu'il a des soutiens. Il faut peut-être dire maintenant un mot du rôle de la France dans tout ça. Alors, on l'a abordé tout à l'heure sur le temps long, on ne va pas y revenir. Mais la France a un rôle, évidemment, en Libye. Elle a joué, évidemment, l'armée française a évidemment joué un rôle déterminant dans la chute de Kadhafi. On peut peut-être préciser que c'est pas aussi univoque qu'on se plaît parfois à le dire. C'est-à-dire que c'est pas la France qui a fait tomber tout seul Kadhafi.
Non, il ne faut surtout pas
ce qui est parfois une idée un peu vague qu'on a, que c'est Sarkozy et BHL qui ont tué Kadhafi. Mais simplement, donc, à partir de là, quel rôle est-ce que la France a joué, disons, dans la restructuration? C'est-à-dire, d'abord, comment est-ce que la diplomatie française se place par rapport à cette phase de stabilisation dont on a compris qu'elle était fragile? Et puis aussi, puisqu'on parle souvent, et vous allez en parler, j'imagine, d'un jeu trouble entre le gouvernement légitime de Tripoli et un soutien qu'on dit caché au maréchal Haftar. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Quel jeu est-ce que la diplomatie française joue là-dedans et pourquoi?
Bon, d'abord, en 2011, ce n'était pas une idée franco-française. C'était surtout une idée qatari-américaine et la France s'est attachée à ce projet très très vite, très tôt, mais jamais seule. En 2013, la France se rend compte qu'elle est complètement éjectée du jeu libyen. Elle a tout perdu. Elle pensait avoir tout gagné et elle se retrouve avec absolument rien. Ni aucune récompense, ni diplomatique, ni de loyauté politique, et ni certainement pas de projet économique ou de vente ou quoi que ce soit. Et finalement, ce qui s'orchestre en 2014, c'est un retour de la France. Et ce retour se fait via le maréchal Haftar. C'est une année qui est quand même assez traumatique.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la France n'avait plus de cartes à jouer par rapport au régime tel qu'il s'était organisé à Tripoli, et Haftar est un moyen de se réinvestir. Mais alors pourquoi est-ce que la France veut se réinvestir dans le jeu libyen? Puisque la manière dont on le décrit depuis tout à l'heure, ça a quand même l'air d'être une énorme migraine, où on prend des coups dans tous les sens. Quel était l'enjeu et la volonté de la France de revenir?
La Libye a toujours fait rêver la France à travers toute l'histoire. Je dirais depuis le début du XXe siècle. La France n'a jamais compris pourquoi il n'y avait pas un gouvernement à Tripoli qui lui était loyal. Ça a toujours été un petit peu... C'est pas un rêve important, c'est un rêve continuel, toujours dans
une ambition,
dans le fond d'écran. Et donc c'est pour ça que, par exemple, voilà, on le retrouve sous Giscard, on le retrouve... Mitterrand, c'était un peu une exception. Mitterrand a compris que, justement, la Tripolitaine, c'était un sac à ennui, et il l'a toujours évité, malgré les provocations et malgré l'attentat que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais là, en 2014, ce qui se passe, c'est que la France n'est pas seule. Autant elle était proche du Qatar, cette fois-ci, elle est proche du projet, disons, émirati pour la région. Il faut se souvenir toujours de ce moment.
C'est toujours le sac de nœuds des pays du Golfe. Mais rappelons les Émirats et le Qatar ont des intérêts complètement opposés sur un certain nombre de thèmes, mais qu'en même temps, la France essaye de concilier les deux sur un certain nombre de thèmes aussi.
Oui, mais il y a une influence, si vous voulez, dans la réflexion, dans la philosophie, dans l'approche régionale qui émane d'Abu Dhabi. Et il n'y a absolument aucune influence idéologique de la part de Doha aujourd'hui, ça je peux vous garantir. Si le Qatar veut acheter, il peut sortir son chéquier et acheter, mais il n'a aucun mot à dire sur le mode de réflexion à Paris. En revanche, le Caire et surtout Abu Dhabi ont beaucoup d'influence sur le mode de réflexion. Donc la France n'est pas seule par rapport à ce sac de nœuds. Elle pense pouvoir bénéficier de l'expertise et surtout de l'audace des Émiratis qui n'hésitent pas à violer l'embargo contre les armes, qui n'hésitent pas à bombarder...
Oui, parce que rappelons, on a oublié de le dire, mais évidemment tout ça est complètement interdit. Il y a un embargo de l'ONU contre toutes les livraisons d'armes. Alors certes, il y avait des armes sur place, mais enfin, on continue quand même à livrer des armes. Enfin,
oui. L'embargo date de février 2011, pour vous dire. Il dure à ce jour techniquement sur le papier, il n'a jamais été respecté, absolument jamais. Mais c'est toujours bon de savoir que la personne qui va se salir les mains, c'est votre partenaire, pas vous. Et c'est un petit peu la philosophie du ministère de la Défense de Le Drian. Et à l'époque, je dis, c'est vraiment le ministère de la Défense avec un souci sécuritaire au niveau de Barkhane. Il faut se souvenir que l'inauguration de Barkhane, c'est août 2014, donc ça correspond un peu à la
toujours
même
toujours avec
époque.
Cette idée qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, mais que la Libye, c'est aussi les marges du Sahel, et que c'est difficile de sécuriser le Sahel si au nord, au nord-est, la Libye est en lambeaux et ça devient une pépinière djihadiste. Enfin, on en a déjà parlé avec Wassim Nasr.
Mais ces soucis sont légitimes, ils sont réels, il faut les respecter. Historiquement, ils étaient tout à fait prévalents en 2014. Il y a aussi le choc de Mossoul, la perte de Mossoul dans les griffes de Daesh choque les Français, et ils voient un parallèle avec Benghazi.
Donc, par ailleurs, on peut rappeler aussi que l'État islamique envoie assez rapidement aussi des émissaires en Libye, et que ça finit par devenir...
Oui, ça, on va s'en rendre compte un peu plus tard, avec un petit peu de... Là, on sait, parce qu'en tant qu'historien, mais le souci de Daesh devient une réalité à partir de fin 2014, début 2015. Vous avez tout à fait raison. Et là, finalement, le calcul du ministère de la Défense, c'est de dire, bon, nous devons être présents, parce que c'est une menace pour les intérêts français, ce en quoi je pense qu'ils avaient absolument raison. Et donc nous allons nous servir du maréchal Haftar comme une espèce de prestataire de services sécuritaires. Il va faire un sale travail pour nous, et bien tant mieux. Si en plus de ça, nos amis émiratis, nos amis égyptiens et nos amis saoudiens le soutiennent, que demande le peuple? C'est parfait. Là où le bât commence à blesser, c'est qu'il y a une dérive. C'est-à-dire que petit à petit, il devient évident que le maréchal Haftar est un acteur politique et non pas strictement obsédé sur le fait de livrer un service optimal à titre sécuritaire. Et là, la France accepte cela. Par exemple, les Américains n'ont jamais, à cette époque, je parle 2014, 2015, 2016, n'ont jamais toléré de leurs concitoyens qu'ils mélangent les deux, qu'ils mélangent les alibis sécuritaires avec ses ambitions personnelles. La France a été très complaisante et a complètement suivi. Et à cette époque, ce qui est intéressant, c'est que Fabius et Hérault, donc je parle du Quai d'Orsay d'une manière générale, soutenaient assez sincèrement, très sincèrement je dirais, le gouvernement d'entente nationale qui était formé par l'ONU sous l'impulsion britannique, américaine, algérienne, italienne, etc. Et là, on a vraiment une situation d'ambiguïté. Il y a deux visages. Il y a le visage sécuritaire à travers la DGSE, à travers le ministère de la Défense d'une manière générale. Et il y a quand même un travail tout à fait authentique, assez sincère, qui va complètement dans le sens inverse quasiment, mais finalement, pourquoi pas? Tout cela disparaît avec l'arrivée du président Macron en 2017. En mai 2017, Le Drian passe au quai, et finalement, tout devient Le Drianesque. C'est-à-dire que le soutien vis-à-vis du gouvernement d'entente nationale de Tripoli devient absolument lettre morte, c'est purement symbolique. Il n'y a absolument aucun geste pour venir aider ce gouvernement qui a beaucoup de problèmes, ça, il faut le reconnaître.
Et pour autant, il faut dire que la France n'est pas la seule dans le jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas la France qui, elle seule, fait basculer la Libye. Il y a toujours des soutiens au gouvernement.
Oui, oui.
Donc c'est en quelque sorte une clarification de la position de la France, mais ce n'est pas non plus ça qui fait changer la situation qu'on va voir.
Il y a une chose que la France a faite qui est très importante, c'est le soutien diplomatique absolument indéfectible. Et ça, c'est quand même...
Pour
même
le maréchal Haftar à partir de 2017.
Par exemple, quand il a lancé son offensive d'avril 2019, nous allons en parler, le grand parapluie diplomatique dans les couloirs européens, dans les couloirs de l'ONU, c'est la France. Avant, même si la Russie fait ce travail de temps en temps, même si les États-Unis de Donald Trump font de ce travail de temps en temps, le véritable protecteur, l'ange gardien, dans les sphères diplomatiques, je ne parle pas du côté militaire. La dimension militaire a existé dans les années 2015-2016, mais pas tellement sous le président Macron. La présidence Macron a vraiment fait des services absolument uniques pour protéger le maréchal Haftar contre toute critique.
I'm
Alors, on va passer maintenant à ce que vous évoquez, c'est-à-dire il y a un moment où, après ce cessez-le-feu de fin 2015, puis cette bataille, cette guerre de Benghazi qui se termine en 2017, il y a une nouvelle, un nouveau chapitre qui s'est ouvert il y a quelques mois, enfin il y a un an et demi maintenant, avec une nouvelle montée de violence depuis 2019, et notamment le fait que le maréchal Haftar, après avoir donc gagné la bataille de Benghazi, disons, s'est mis à avancer sur Tripoli. En avril 2019, on peut tout de suite spoiler la fin, dire que ça s'est soldé par un échec malgré un fort soutien étranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça s'est redéclenché? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Puisque, c'est-à-dire sur le papier, ce que vous décrivez, c'est que le maréchal Haftar a à la fois le Golfe, l'Égypte, la France derrière lui. On se demande pourquoi il n'a pas réussi à prendre Tripoli sans coup férir.
Ouais, une très bonne question, et je vous remercie de me la poser. Tout d'abord, il y a quelque chose qui est quand même caractéristique de la période, disons les 24 mois qui ont précédé avril 2019, c'est une période où le Qatar, et je suis le premier à souligner son caractère virulent en Libye en 2011-2012, à partir du moment où l'émir change en juin 2013, son action qui continue, ne s'est jamais arrêtée, commence à s'amenuiser en termes d'intensité, en termes d'entêtement, en termes de son caractère provocateur. La Turquie aussi. La Turquie a aidé indirectement les brigades islamistes de Benghazi, on en a parlé, hein, ils recevaient leurs armes de Turquie vers Misrata, et Misrata envoyait ça à Benghazi. Donc je ne cherche pas du tout à présenter ces acteurs comme innocents, loin de là. Mais d'un point de vue technique, factuellement, ils étaient de moins en moins virulents. Parce que finalement, ce qui prévalait en Libye, c'était pas tellement Haftar. Il y avait une acceptation grandissante d'Haftar, mais surtout, il y avait l'acceptation d'une convergence entre les deux camps. Et cette convergence-là, elle était peut-être bonne pour le pays, elle était bonne si vous détestez les islamistes et les radicaux, puisqu'ils étaient de plus en plus faibles. Les choses allaient finalement dans une bonne direction, si vous êtes assis à Abu Dhabi ou au Caire, mais ce n'est pas bon si votre nom, c'est Khalifa Haftar, parce que vous avez 76 ans, et cette convergence-là ne va pas forcément se traduire par vous qui arrivez sur un pédestal dans la place centrale de Tripoli, la place des martyrs, et en étant président. Il y a ces deux choses différentes. Donc si à l'échelle nationale et à titre sécuritaire, les choses évoluent finalement lentement, mais dans la bonne direction, eh bien c'est trop lent si vous avez 76 ans et que votre rêve le plus cher, c'est d'arriver au pouvoir. Donc là, ça crée, si vous voulez, un conflit d'intérêts entre ce qui est censé être simplement un vecteur, mais qui finalement a son agenda très personnel, et la stratégie des États qui le soutiennent. C'est pas la même chose. Et donc le risque qu'il prend en avril 2019 en lançant cet acte complètement, je dirais, fou, parce qu'il a une armée qui n'est pas très motivée, hein. Il faut quand même voyager 1000 km de sa commune de naissance, il y a très peu de soldats, il y a vraiment un pourcentage assez petit de son armée qui accepte d'aller dans une guerre d'usure, aux abords de Tripoli, une province qu'ils ne connaissent pas, et aller mourir ou risquer leur vie là-bas. Et surtout, il y a c'est un territoire très densément peuplé, et une solidarité qu'il provoque en les attaquant d'une manière aussi peu subtile, aussi peu nuancée, aussi provocatrice et aussi frontale. Et ça, c'est ce phénomène-là, ce manque de subtilité, ça a tout fait dérailler. Mais le caractère, si vous voulez, têtu des Émirats a fait qu'ils ont tout de suite embrayé. Dès le mois d'avril, ils ont commencé une campagne de frappes aériennes à travers leurs drones qui étaient déjà stationnés en Libye, et avec aussi, pour saupoudrer le tout, pour complémenter, des frappes en utilisant des mirages qui décollaient de l'ouest égyptien de temps en temps. Donc c'est 1000 frappes aériennes qui ont lieu en appui au maréchal Haftar, qui sont effectuées par les Émirats. Mais ça ne suffit pas, parce que, je viens de vous le dire, le diagnostic principal, c'est la faiblesse au sol. Des coordinations tactiques, pas de vision stratégique pas tout à fait convaincante ou en tout cas adéquate par rapport au caractère épais de cette résistance, de cette solidarité qu'il a provoquée, qu'il a catalysée de lui-même, et surtout ce manque de motivation des combattants. Donc ça explique aussi l'utilisation des mercenaires qui ne fait que croître, parce que les Libyens ne veulent pas tellement mener cette guerre.
Mais alors, il faut en parler maintenant, c'est-à-dire on l'a un peu repoussé, parce que j'ai dit dès le début que je ne voulais pas en faire un cas d'étude géopolitique. Mais il faut dire que là, dans cette bataille qui a lieu, il y a une énorme part qui est internationalisée. Alors, il y a évidemment... C'est-à-dire, il faut décrire un peu les camps en présence. Mm-hmm. C'est-à-dire, Haftar, on a décrit, c'est les Émirats, la France, même si on peut discuter de l'implication réelle de la France, c'est-à-dire c'est pas la même chose que les Émirats arabes unis du tout. La Russie aussi, dont on parle pas très souvent, mais la Russie qui très clairement soutient le maréchal Haftar, et on a même évoqué des livraisons de MiG et de Sukhoi au maréchal Haftar. Bon, quant à savoir ce que ça changerait, c'est une autre question, mais on a évoqué la capacité que peut-être il soit soutenu très directement militairement par des Russes, donc non seulement du matériel, mais quand on livre des avions de chasse, c'est qu'on livre des pilotes aussi. Et de l'autre côté, il y a la Turquie, qui soutient très clairement le régime de Tripoli. Alors, il va peut-être falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Il y a aussi les États-Unis qui le soutiennent, en tout cas au moins nominalement.
Oui, oui.
Donc, comment est-ce que ça se passe? Et surtout, qu'est-ce que... la question derrière, c'est qu'est-ce que chacun cherche, là?
Pour ce qui concerne la Turquie, elle a, disons, trois grandes sources de motivation. D'abord, le commerce. Elle avait pour plus de 18 milliards de contrats qui était en cours avant la chute de Kadhafi. Elle était contre l'intervention de l'OTAN. La Turquie a traîné la savate jusqu'au dernier moment. Hein. Elle était convaincue par le président Obama à l'époque, mais vraiment elle était un petit peu forcée, on a tordu le bras. Et la raison déjà, c'était conserver cette manne. Il y avait un quart des travailleurs turcs expatriés dans des pays arabes qui étaient concentrés en Libye. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. On parle de 25 000 travailleurs ou plus. Le fait donc qu'elle rêve de pouvoir raviver ces contrats qui existent encore sur le papier et être payé, les réaliser, être payé et aussi en rajouter, signer d'autres, puisque finalement il y a de l'argent.
Encore une fois, il faut toujours rappeler qu'il y a toujours du pétrole.
Beaucoup de pétrole, oui, il y a beaucoup de pétrole et il y a, voilà, c'est un pays qui peut faire facilement 24 milliards de dollars de revenus annuellement en temps plus ou moins calme. L'autre chose qui attire la Turquie, c'est l'Afrique, le reste de l'Afrique. Si on est exclu de la Tripolitaine, on peut faire une croix sur ses rêves africains. La Turquie, c'est une véritable économie. On peut aimer ou ne pas aimer son président, mais d'un point de vue du tissu industriel, de sa capacité à exporter, c'est une démographie plutôt jeune, qui est éduquée, qui est capable de se comporter comme des entrepreneurs et qui ont donc besoin d'augmenter leur part de marché. Et dans ce contexte-là, la croissance, d'un point de vue de la consommation africaine, si vous voulez, en tant que continent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de rater. Donc, ils savent très bien que s'ils se font expulser de Tripolitaine, ils peuvent dire au revoir à tout ça. Inversement, s'ils gagnent le nord-ouest libyen, chose qui a été faite en juin 2020, s'ils complètent ça avec une saisie du Fezzan, le fameux Fezzan, et ben on se retrouve à être en contact avec le Tchad, avec le Niger. Ce sont quand même des... Même si la France considère ces républiques comme étant extrêmement proches, ce sont des États qui sont très fragiles, qui ont besoin de maximum d'amis, et là c'est une opportunité pour la Turquie qui veut aller beaucoup plus loin, qui veut aller en Afrique. Elle a déjà des liens assez poussés avec le Nigeria. Il y a le côté africain qui est très important, il faut ce passage. L'autre raison, elle est idéologique, c'est vrai, il y a une instrumentalisation du fait que la Turquie a toujours cultivé les réseaux qui sont des partisans de l'islam politique, à travers maintenant son partenariat extrêmement étroit avec le Qatar.
Qatar, oui, j'ai oublié le Qatar qui soutient évidemment aussi le gouvernement.
Qui soutient les frères musulmans et qui soutient d'autres formes d'islamisme, politisé, moins politisé, plus djihadiste, moins djihadiste, plein de nuances. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on vient sauver un gouvernement, on peut l'appeler corrompu, je suis d'accord, il est dysfonctionnel, oui, mais c'est quand même une forme de pluralisme. À l'intérieur de ce gouvernement de Tripoli, la composante frériste est bel et bien une réalité. Et ça, quand on vient sauver par la force ce gouvernement qui était au bord de disparaître, hein, qui était vraiment sur le plan de s'écrouler complètement, ne serait-ce qu'en novembre, décembre 2019, eh bien ça envoie un message idéationnel, si je puis dire, à la Somalie, à la Tunisie, à l'Algérie, au Maroc, au Soudan, et même au-delà. Ça veut dire, voilà, soyez amis avec la Turquie, si on est déjà en contact avec vos réseaux idéologiques, continuons, et nous représentons quelque chose. Nous sommes de vrais amis, nous ne sommes pas des traîtres. Nous, voilà, misez sur nous, et ça c'est une plateforme pour justement développer l'influence géopolitique, calculée, cynique, réaliste. C'est une manipulation de cette aura idéologique.
Alors on va dire simplement, on va préciser que ça a été, le podcast y reviendra dans les semaines qui viennent, oui, sur les tensions avec la Turquie, mais c'était notamment une des sources de tensions, c'était des livraisons d'armes de la Turquie aux gouvernements, aux forces fidèles au gouvernement de Tripoli, qui sont, effectivement, on le répétait tout à l'heure, totalement illégales, mais en même temps, c'est ni les premiers ni les derniers à livrer des armes au sein de cette guerre civile. Donc on peut dire qu'il y a, il y a aussi une certaine hypocrisie à sauter sur la Turquie simplement parce qu'ils livrent des armes à un camp vers lequel on est défavorable, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Et de l'autre côté, il y a peut-être un acteur dont il faut dire un mot, dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est la Russie. Alors j'en ai rapidement parlé. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là, les Russes ?
La Russie, ça ressemble. Hein. Ça ressemble au commercial, le passage à travers ce ventre mou vers une Afrique qui est manifestement d'une importance croissante dans les 10-20 prochaines années pour la Russie. Et c'est aussi une façon d'obtenir une plateforme, j'allais dire, idéologique pour venir décrédibiliser les institutions libérales, idéalistes, américaines. Donc tout ce qui est ces grandes institutions transnationales comme l'OTAN ou même l'Union européenne. Faire peur à l'Union européenne.
C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent nominalement le gouvernement de Tripoli.
Oui. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi que si demain la Russie aperçoit comme chemin optimal une certaine complicité avec le gouvernement de Tripoli, elle le fera sans hésiter, puisque son aide est tellement clandestine et tellement non avouée qu'elle a cette marge de manœuvre. Il y a encore des canaux de communication avec Tripoli, malgré tout ce qu'elle a fait. Donc il y a cette idée de venir saboter l'Europe, de saboter la cohésion occidentale, y compris transatlantique, et aussi pincer, mettre des tenailles autour de l'Europe du point de vue de l'approvisionnement énergétique, parce qu'il y a une bonne maîtrise des Russes sur le flanc Est, mais si on peut aussi venir perturber le flanc Ouest en termes de flux de gaz, par exemple, alors là, c'est encore mieux. Et c'est ce trio, ce triptyque de motivation qui guide la Russie. Et certains commentateurs disent que la Russie est par pur opportunisme. C'est vrai en partie, mais il y a quand même une certaine logique là-dedans.
Enfin, au terme de cette plongée longue et en profondeur dans l'océan des divisions et de la fragmentation de la Libye, j'ai commencé par vous poser une question très bête. Je vais vous finir en vous posant une autre question très bête, mais tout aussi difficile. C'est-à-dire, au stade où on est, comment est-ce qu'on en sort ? C'est-à-dire, au stade de déliquescence de l'autorité de l'État, manifeste, de fragmentation militaire, politique, économique du pays, au stade de destruction qu'on a vu. C'est-à-dire, pour le dire un peu brutalement, est-ce qu'il faut qu'il y ait un des deux camps qui gagne et et en tire l'autorité nécessaire pour reconstruire l'État ? Est-ce que c'est réaliste, étant donné le fait notamment que, vu les soutiens des deux camps qu'on vient d'établir, on voit mal un des deux camps s'effondrer complètement, puisque que ce soit la Turquie, l'Union européenne, les États-Unis, la France, les Émirats, etc., et qu'ils sont tous dans des camps opposés, on imagine mal qu'il y a un des camps qui laisse complètement, disons, les parties en présence s'effondrer.
Oui, je pense que les États-Unis ont encore la puissance pour pouvoir mettre en œuvre une solution. Par contre, le désir politique de le faire est absolument inexistant. Donc on peut oublier. D'une manière réaliste, ce n'est pas possible, même si Biden gagne en novembre. Là, il faut prendre une décision. Parce que là, ce qui est intéressant, par exemple, le taux de mortalité par la violence, le taux de destruction, tout cela a complètement chuté à partir du moment où le gouvernement d'entente nationale, aidé évidemment par la Turquie, les drones, les mercenaires syriens, 8000 mercenaires syriens du côté...
Il y a encore toute une partie dont on n'avait pas parlé, mais c'est les mercenaires du côté de la force Wagner des Russes, voilà. Les Turcs... Enfin,
Est-il que la bataille de Tripoli a été gagnée par le côté pro-turc. Et depuis, beaucoup moins de Libyens meurent, il n'y a pas d'aéroports qui sont détruits, il n'y a pas de villes qui sont bombardées, etc. Il y a un calme qui s'est instauré, qui ne ressemble pas à la fin du conflit, pas du tout. Ça ne ressemble même pas à une paix, mais disons que le niveau de violence a été fortement réduit. Et là, on doit décider, en tant qu'observateur extérieur, disons non-libyen, notamment français, il faut prendre deux décisions. Est-ce qu'on va accepter une réalité, c'est-à-dire l'enracinement, qui à mon sens est en grande partie irréversible, de la Turquie en Tripolitaine, déjà 4 bases militaires, dont une base navale, hein, c'est quand même, ce sont des bases turques, ce ne sont pas des bases de Libyens pro-turcs, hein, c'est vraiment des officiers turcs avec même pas la possibilité d'entrer si on est étranger. Et la même question pour la Russie, à l'Est. On sait que l'Égypte ne va jamais partir, c'est son voisin, ils sont là, l'influence égyptienne en tout cas, c'est pas une situation d'occupation, mais l'influence est très importante, les Émiratis ont des bases aussi, mais disons, par rapport à la Russie, il faut décider sur le plan philosophique, Est-ce qu'on va imaginer une solution où on va pouvoir éjecter la Russie de la Cyrénaïque un jour, ou est-ce qu'on accepte que ça fait partie des meubles? Ce sont deux questions très douloureuses qu'il faut que, par exemple, les décideurs français puissent vraiment étudier sérieusement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une acceptation de la Turquie, par exemple. Et si on veut combattre la Turquie, c'est-à-dire qu'il faut une guerre extrêmement intense, quel que soit le degré de gravité de la crise économique qui est vécue par la Turquie en interne. Elle est très grave, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont d'un seul coup partir de par eux-mêmes. Il faut faire la guerre. Donc c'est une question philosophique très importante. La même chose pour la Russie. Pour l'instant, la France considère que la Russie est une présence plutôt bénigne. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est un petit peu le vent qui souffle en ce moment.
Ils sont techniquement le tout soutien au maréchal Haftar, voilà. Et un soutien, enfin, ou en tout cas une acceptation du rôle que prend la Russie dans la région.
Oui, tout à fait. Mais justement, il y a débat là-dessus parce que ce n'est pas forcément une présence bienveillante vis-à-vis des pays européens, de l'OTAN, de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je remettrai même en question cette notion qu'ils souhaitent que Haftar gagne. Je pense qu'ils n'ont jamais... Là, une des raisons pour lesquelles Haftar, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'Haftar n'a pas gagné? C'est parce que la Russie, qui est essentielle pour lui sur le plan militaire, n'a jamais pris la décision stratégique de faire en sorte qu'il gagne. C'est vraiment du cynisme poussé jusqu'au bout, mais moi j'écris en ce moment un article là-dessus. On peut l'étudier scientifiquement et on peut prouver que toutes les opportunités où elle aurait pu s'investir en tant qu'État, pas à travers des mercenaires, en tant qu'État, mettre en jeu sa crédibilité et pousser comme ça le maréchal Haftar jusqu'à la ligne d'arrivée, elle ne l'a jamais fait parce que ce n'est pas ce qu'elle cherche à faire. Donc il y a vraiment une utilisation, une consommation opportuniste de ce théâtre complètement dysfonctionnel. Dysfonctionnel avant son arrivée par la Russie. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a accepté cela, si on accepte que l'Ouest est une sphère d'influence dominée par la Turquie, on dit que voilà, c'est comme ça, ça va être comme ça dans 15 ans, on n'y peut rien. Et on accepte la même chose par rapport à la Russie et l'Égypte en Cyrénaïque, et qu'on décide que la mission des diplomates, c'est de faire en sorte que le niveau de violence dont je parlais tout à l'heure reste bas, là ça devient une autre paire de manches, et je pense qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités, des astuces, disons, de partage de la manne pétrolière, du système financier qui est complètement à l'arrêt du fait du blocus pétrolier qui dure depuis janvier, aussi d'une crise monétaire qui est très grave, qui dure depuis plusieurs années, etc. Si on vient, d'un point de vue purement technocratique, réparer ces petits tuyaux et accepter certaines astuces, comme par exemple ce qu'on essaie de faire en ce moment à Genève, déplacer les institutions clés de Tripoli vers la ville de Sirte, comme ça on fait une pierre de coup, on la démilitarise et on la neutralise un petit peu, on fait en sorte qu'il n'y ait pas cette concentration d'importance dans cette ville très peuplée de 1,2 million d'habitants qu'est Tripoli. Si on fait tout cela, on peut concevoir un régime très bizarroïde où il y a ces deux sphères d'influence qui coexistent, qui cohabitent ad vitam et qui ne représentent pas une réalité de guerre. C'est-à-dire que les gens ne meurent pas, ne sont pas tués, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas d'impunité, il y a un début de justice transitionnelle et ainsi de suite.
Mais stratégiquement, c'est une autre paire de manches, et l'alternative, on a bien compris, était compliquée, puisque faire la guerre aux deux, c'est compliqué, faire la guerre à l'un ou à l'autre, c'est compliqué aussi.
Exactement, il faut y réfléchir très sérieusement, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, est-ce qu'on accepte ou pas.
Merci beaucoup, Jalel Harchaoui.
C'est moi, merci beaucoup.
C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires et remarques qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes, notamment sur iTunes, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast et ce qui nous aide à avoir des retours sur ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.